Donc bonjour à toutes et tous, on est ravis que vous soyez si nombreux. On ne s'attendait pas à autant de monde, autant d'inscriptions, donc c'est vraiment une bonne nouvelle. Je relis peut-être pour ceux du fond l'intitulé, le titre, donc c'est « Les droits des personnes analphabètes ou illettrées sous l'angle de la législation antidiscrimination, état des lieux et pistes d'action pour les associations ». Alors d'abord on va peut-être se présenter et puis après on vous demandera de vous présenter, mais très brièvement, parce qu'on est quand même nombreux, peut-être donner votre prénom, votre nom et l'association ou le lieu où vous travaillez, comme ça, ça nous permet d'identifier un peu d'où vous venez.
Bonjour à toutes et tous. Anaïs Lefrère, et je travaille dans le service qu'on appelle protection, qui est le service juridique. On reçoit les signalements, les demandes, on les analyse, on intervient, on négocie et parfois on va en justice. On en parlera un peu plus après.
Voilà, et donc moi c'est Sébastien François et moi je travaille dans un autre service, c'est le service politique et monitoring, qui est un service qui fait plus un travail de plaidoyer politique auprès des différentes instances belges. Voilà, alors tout d'abord, présenter très sommairement UNIA, je pense que vous vous entendez tous parler une fois de temps en temps d'UNIA, on l'espère en tout cas. Alors, qu'est-ce qu'UNIA ? Bah, c'est une institution publique. Souvent, les gens pensent que c'est une association, une ASBL, une ONG, mais non, c'est bien une institution publique dont les statuts, les financements sont cadrés dans une loi. C'est très clair. C'est interfédéral, c'est-à-dire qu'on a une compétence dans les différentes entités du pays, du fédéral à la communauté germanophone. Mais vous avez peut-être entendu que la Flandre s'est retirée depuis mars 2023 d'UNIA, car ils estimaient qu'ils feraient mieux les choses en ayant leur propre structure en Flandre. Et puis, on n'était pas toujours d'accord sur la manière de travailler. Et donc, mais on est compétent pour la région bruxelloise, la Fédération Wallonie-Bruxelles, la région Wallonne, le fédéral, la communauté germanophone. Alors on est indépendante parce qu'on n'a pas de ministre de tutelle. On n'a pas un ministre qui peut nous dire « vous devez travailler là-dessus, vous ne devez pas travailler là-dessus ». On a par contre un comité, un conseil d'administration d'une trentaine de personnes qui sont des personnes qui sont désignées par les différents parlements des différentes entités du pays. Donc chaque parlement désigne des personnes qui font partie de notre conseil d'administration qui se tient tous les mois. Alors, experte, une institution experte, alors ça fait un peu, je me la pète, mais en fait, c'est vrai que l'institution existe quand même depuis 1993, avant c'était le Centre pour l'égalité des chances, que tout le monde connaissait plus qu'après le changement de nom, et c'est vrai qu'il y a donc une accumulation d'expertise en matière de droits humains, en matière de lutte contre les discriminations. On est aussi reconnu mécanisme indépendant pour la promotion et veiller à la bonne mise en œuvre de la Convention ONU sur le droit des personnes en situation de handicap. Donc ça, c'est un rôle aussi, une expertise que nous avons. Et puis, on est reconnu comme INDH, donc Institut National de Protection des Droits Humains. Donc voilà, ça, c'est pour une courte présentation du lien.
Pour faire le tour de table
Oui, après. C'est vrai. Mais on peut faire le tour de table maintenant et puis on continuera. On commence par vous, madame.
Ce tour de table d'une quarantaine de personnes présentes a montré trois origines principales. Majoritairement, le secteur de l'Alpha et du FLE, mais aussi, plus largement, du secteur social associatif et enfin d'organismes publics ou parapublics.
Vos panels très, très variés. Alors, je propose qu'on poursuive. Ah oui, sur UNIA. Alors UNIA, évidemment, a différents métiers. Il faut savoir que UNIA, c'est plus ou moins 90 personnes réparties dans différents services. Alors évidemment, le service le plus important, selon moi, qui est évidemment le service qui traite les signalements de toutes les personnes qui estiment être discriminées. Donc, chaque fois, il y a une trentaine de personnes dans le service, dont fait partie Anaïs, qui analyse les signalements qu'ils reçoivent et si on est compétent, si on est bien dans le cadre d'une discrimination, ouvre un dossier qui va être instruit. Alors il est marqué dialogue si possible, une action en justice si nécessaire. C'est vrai que dans la majorité des situations, on essaie de parvenir à un compromis, on négocie, on dialogue avec... Voilà, si la discrimination apparaît au sein d'une école, au sein d'un service public ou chez un employeur, ben on va essayer d'aller à la rencontre de cet employeur et trouver un terrain d'entente, mais parfois c'est pas possible. Et donc, on va en justice. On va en justice dans très peu de cas, plus ou moins 1% des dossiers. Mais souvent, c'est ce qu'on entend à la télé ou à la radio, on dit une IA est partie dans tel procès, mais donc c'est très rare qu'on aille en justice. Alors, on a un autre service, mais voilà, tout le monde chez une IA donne des formations, mais on fait aussi un travail d'information, de sensibilisation, de formation, d'accompagnement. On forme, voilà, comme aujourd'hui, des professionnels de différents secteurs. On forme aussi des fonctionnaires publics de différentes instances, mais on accompagne aussi des entreprises privées qui ont envie d'avancer sur les questions de diversité en leur sein. Par exemple, on a accompagné Bigpost sur le long terme, donc c'est toujours un accompagnement sur plusieurs années, pour essayer que voilà, cette entreprise, par exemple, comme d'autres, puisse avancer sur des plans de diversité, etc., etc. Alors, il y a aussi le fait qu'une IA donne des avis et recommandations. Donc, c'est vrai qu'il y a des projets de loi qui arrivent tout le temps. Chaque entité adopte des lois, des décrets, des ordonnances. Et dans ce cadre-là, souvent, bien souvent, les ministres de tutelle viennent vers une IA en soumettant le texte et en disant « on aimerait bien avoir votre avis sur ce projet de texte ». Et donc, nous, on remet un avis. Les ministres ne viennent pas vers nous demander notre avis, mais on essaye alors de remettre un avis d'initiative, on essaie de mettre la main sur les textes et on remet un avis. Alors pour le reste, on fait aussi un travail de plaidoyer politique, et ça c'est le service où je suis, où c'est vrai qu'on essaye de pousser en fait un certain nombre de recommandations auprès des décideurs, auprès des différentes entités du pays. Alors, il devrait y avoir un quatrième, ce sera pour mardi prochain. On a un tout nouveau service prospective qui fait de la recherche. On fait de la recherche, on a maintenant un groupe de 6-7 chercheurs qui travaillent à plein temps sur différentes recherches en lien avec les discriminations, la lutte contre le racisme, etc., etc. Alors, la discrimination, c'est quoi ? La discrimination, c'est de traiter différemment une personne ou un groupe de personnes dans une situation comparable, basée sur un critère protégé par la loi, et ça on va y arriver après, il y a un certain nombre de critères qui sont protégés par la loi, sans qu'il puisse y avoir une justification à cette différence de traitement. Donc ça c'est la définition claire de la discrimination. Mais il y a évidemment une différence entre le sentiment d'être discriminé. C'est vrai que bien souvent, des gens se tournent vers nous en disant « voilà, je suis discriminé ». Alors c'est possible qu'ils rencontrent des difficultés, mais la discrimination, le fait d'être discriminé au regard de la loi, c'est très cadré, c'est très spécifique. Il y a pas mal de conditions qu'il faut rencontrer pour qu'on puisse vraiment parler de discrimination. Alors le schéma que vous voyez ici, on va le voir plusieurs fois au fur et à mesure de la matinée parce qu'il est très important, voire central. Et je pense que le cheminement intellectuel que font les collègues du service protection qui instruisent les dossiers, en fait, chaque fois qu'ils reçoivent un signalement, en fait, ils se posent les différentes questions qui sont reprises ici. D'abord, ils reçoivent un signalement, ils se disent « est-ce qu'on est face à un critère protégé par la loi ?» Si c'est le cas, on avance. Est-ce que c'est un domaine d'application de la législation antidiscrimination ? Oui, non. Est-ce que c'est un comportement interdit ? Oui, non. Et est-ce qu'il y a une justification qui pourrait justifier en fait, de traiter différemment une personne dans une situation ? Si on peut répondre oui, 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 non, alors on est face à une discrimination et donc on peut ouvrir un dossier. Si on ne peut pas répondre à ces différents questions dans le sens du oui, 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 non, alors on n'est pas face à une discrimination au regard de la loi et donc on n'est pas compétent et donc on va diriger, orienter la personne peut-être vers d'autres opérateurs, vers d'autres services qui pourront l'aider par rapport au problème qu'elle rencontre. Alors commençons peut-être par les critères protégés puisque ici c'est un peu, vous expliquez un peu tout le cadre de la législation. Alors ici, vous avez les critères protégés par la loi. Alors pour la petite histoire, il faut savoir que l'adoption des législations antidiscrimination, c'est un travail sur plusieurs décennies. Le point de départ, c'est 81 avec la loi Moreau, où on a adopté un certain nombre de critères protégés qui sont les critères dits raciaux qu'on voit ici. Donc c'est la prétendue race, la couleur de peau, la nationalité, l'origine nationale ou ethnique et l'ascendance. Est-ce que quelqu'un a une idée de ce que c'est que l'ascendance, le critère de l'ascendance ? Vous avez déjà entendu parler de ça ou ça vous dit quelque chose? Vous reliez?
C'est la famille d'Ombre.
Non, c'est pas lié à la filiation ou à la famille. En fait, c'est un critère qui a été créé spécifiquement pour les personnes juives. Puisque le fait d'être juif ne va pas être lié à une conviction religieuse, à une nationalité ou à une couleur de peau. Il y a une grande diaspora juive dans le monde, et donc il y a des juifs en Éthiopie, comme il y en a dans plein d'autres pays, donc c'est pas lié à la couleur de peau. Il faut pas forcément être religieux, ou en tout cas suivre la religion hébraïque pour être juif. Donc on a créé un critère spécifique pour les personnes juives. Alors, en 2000, donc 80 à la loi Moreau, en 2000, l'Europe a adopté deux grandes directives par rapport aux discriminations. C'est la directive genre et la directive discrimination générale. En 2000, c'est adopté, et donc tous les pays européens ont dû transposer ça dans leur législation, comme ça se fait pour toutes les directives européennes. Ils ont quand même pris 7 ans pour les transposer. En 2007, le fédéral a adopté une loi, lutte contre les discriminations, dans laquelle ils ont intégré la loi Moreau. Et donc, on a eu une législation fédérale qui reprenait 19 critères protégés. Ensuite, comme on est en Belgique, État fédéral, il a fallu que toutes les entités, les communautés et les régions, transposent et adoptent eux-mêmes des décrets et des ordonnances lié à la lutte contre les discriminations. Donc ça a été en plusieurs étapes, Europe, fédérale et puis les différentes entités. Alors aujourd'hui, on voit qu'on a tous ces critères. Le handicap, je pense que c'est clair. La fortune, je ne sais pas si quelqu'un peut identifier ce que c'est. En tout cas, c'est l'origine des moyens financiers dont une personne dispose, quelle que soit l'origine de ces moyens. C'est-à-dire que ce soit tiré d'un emploi, ou que ce soit tiré de l'aide sociale, d'argent qu'on reçoit du CPS, ou parce qu'on est en situation d'invalidité. L'âge, vous voyez ce que c'est, l'état de santé, conviction philosophique, orientation sexuelle, état civil, caractéristiques physiques ou génétiques, conviction politique, conviction syndicale, naissance. Alors là, c'est plus lié à la filiation. Un exemple qui est un peu tiré par les cheveux, mais voilà, c'est par exemple avoir le nom de quelqu'un connu dans l'histoire et qui est vu très négativement. Par exemple, Dutroux, porter le nom de Dutroux aurait pu, dans les années 90, mettre la personne qui portait ce nom dans une situation compliquée pour décrocher un emploi ou quoi. Ok, c'est donc le critère de la naissance, c'est pour protéger en fait cet aspect-là. La composition de ménage, c'est un critère relativement récent, c'est-à-dire qu'avant, un ménage était plus ou moins vu comme un homme, une femme, des enfants. C'est vrai qu'on a vu que petit à petit, maintenant, on a des structures familiales très diverses. On a des familles avec une homoparentalité, avec des personnes de même sexe, on a des familles monoparentales, et pour couvrir toute la diversité des familles, on a créé un critère protégé qui est la composition de ménage, parce qu'on voit que les familles monoparentales, par exemple, ou bien des couples de même sexe, rencontrent souvent des problèmes et peuvent être victimes de discrimination. Alors, il y a l'origine et la condition sociale. L'origine, c'est plutôt lié à la classe sociale d'où on vient. Par exemple, la classe ouvrière, on peut subir une discrimination parce qu'on est issu d'une certaine classe. Et la condition sociale, c'est plutôt la situation sociale, socio-économique d'une personne. Être sans abri, être prostituée, etc., etc. Alors, vous voyez qu'on n'est pas compétent pour le sexe et les critères découlent du sexe, parce que c'est l'IEFH qui s'en occupe, donc l'Institut pour l'égalité des femmes et des hommes, c'est eux qui sont pleinement compétents. Sachez qu'on partage les mêmes bureaux, on est au même endroit, ceci pour faciliter évidemment les échanges entre nos différentes institutions, et donc on travaille régulièrement ensemble. Et alors, étrangement, nous ne sommes pas compétents, et en fait personne ne l'est en Belgique pour la langue, parce que la langue en Belgique reste problématique. Il y a tout l'aspect communautaire, etc. Et donc, les politiques ont dit, ouf, la langue, trop chaud, on la donne à personne, on ne s'en occupe pas. Pourtant, on a pas mal de gens qui se tournent vers nous et on ne peut rien leur dire, sauf, voilà, on ne peut pas traiter, on ne peut pas suivre. Et donc, UNIA est demandeur depuis longtemps pour devenir compétent pour la langue. On espère que les choses bougeront dans ce sens-là. Voilà. Je passe la parole à Anaïs.
Merci. On va essayer de faire un lien entre ce qu'on vient de voir et la question qui nous a été posée. Tiens, mais les personnes analphabètes ou illettrées sont-elles discriminées quand elles sont face à la fracture numérique ? Donc, Sébastien vous a montré qu'on a notre petite flèche, on avance. Quel est le critère protégé ? À votre avis, quel critère protège les personnes analphabètes ou illettrées ? Vous avez vu tous les critères.
Il y a quelque chose sur la formation, je pense.
Sur quelle formation ?
Sur la formation,
Vous voulez que j'en mette les critères ?
Ah, okay. Oui, oui.
Voilà les critères. Vous les voyez bien, au fond ?
Oui, non.
Non ? C'est
trop clair.
Vous voulez que je les répète ou
Peut-être qu'on peut les reciter.
Le handicap, la fortune, l'âge, l'état de santé, les convictions philosophiques ou religieuses, l'orientation sexuelle, l'état civil, les caractéristiques physiques ou génétiques, les convictions syndicales et politiques, la naissance, composition de ménage ou responsabilité familiale, origine et conditions sociales, et puis tout ce qui est les critères dits raciaux.
Origine
et conditions sociales, rien d'autre ?
Handicap.
C'est le cheminement qu'on a fait, et c'est pour vous expliquer notre cheminement que je passe par là. On s'est d'abord posé la question, tiens, est-ce que le critère du handicap pourrait répondre à la situation d'une personne analphabète ou illettrée ? Pas en se disant que c'est une personne qui est en situation de handicap, mais en se disant que sa situation est handicapante dans la société dans laquelle on est. Et effectivement, le handicap, c'est un critère qui est hyper large parce que, Sébastien vous l'a dit, il y a la convention ONU qui protège les personnes en situation de handicap qui est applicable en Belgique. Et le handicap, c'est pas vu comme une personne est atteinte d'un handicap ou porteuse d'un handicap, mais plutôt une personne est en situation de handicap parce que la société la met en situation de handicap. C'est la société qui crée le handicap parce que c'est la société qui n'est pas inclusive et donc qui ne permet pas à tout le monde d'être bien dans la société et d'avoir accès à tout dans la société. Et donc, ce que dit la Convention ONU, c'est que vous avez la situation dans laquelle on est de la société comme elle est, une barrière. Il y a des personnes qui peuvent très bien voir, il y a des personnes qui peuvent bien voir et puis il y a des personnes qui ne voient rien du tout. Ça, c'est notre société qui est non inclusive. Quand il y a une situation de handicap, et c'est pour ça qu'on avait un petit peu envie de ces handicaps, quand il y a du handicap, il y a une protection particulière qui s'appelle l'aménagement raisonnable. On va vous l'expliquer plus longuement après, mais l'aménagement raisonnable, c'est une personne individuelle placée dans une situation qui lui pose problème peut dire, moi je veux un aménagement qui est raisonnable, je veux qu'on mette quelque chose en place pour que moi j'ai aussi accès à quelque chose. Et il n'y a que le handicap qui crée cette protection, les autres critères ne le créent pas. Vous ne pouvez pas dire, moi j'ai telle conviction, j'aimerais qu'on mette en place des aménagements pour pouvoir exercer correctement ma conviction. Ça n'existe pas, ça n'existe que pour le handicap. Et donc on met en place un aménagement qui est raisonnable. On aide la personne à pouvoir fonctionner dans notre société non inclusive. Et la Convention ONU va plus loin, elle dit que ce n'est pas ça hein, l'objectif, ça c'est de l'individuel. Ce que vous devez mettre en place, c'est du structurel, c'est une société inclusive, c'est que tout le monde puisse participer à la société sans qu'individuellement, on doive mettre en place des aménagements raisonnables. Donc, nous, dans notre petit cheminement, on se dit « Ah, le handicap, ce serait top parce qu'on peut demander des aménagements raisonnables. » Si une personne vient nous voir en disant « Ben voilà, il y a un service qui ne m'est pas accessible parce que je suis analphabète », nous, on pourrait dire « Ah, mais alors, si c'est une situation de handicap, on va demander un aménagement raisonnable pour cette personne. » Mais en fait, on ne peut pas. Parce que, un, c'est stigmatisant pour le public analphabète ou illettré, donc on a eu vraiment toute une discussion en se disant, mais est-ce que c'est vraiment l'objectif ? Et ensuite, parce que la notion du handicap ne recouvre pas ce handicap que nous, on pensait être un handicap social, mais qui en fait n'est pas du handicap social. Donc en fait, le handicap ne recouvre pas la notion de personne analphabète ou illettrée. Mais il y a pas mal de personnes analphabètes ou illettrées qui sont en situation de handicap, par exemple les TDA, les troubles de l'attention, etc., qui ont pu entraîner la situation d'analphabétisme. Donc, parfois, une personne sera dans les deux situations, et puis parfois, la personne sera analphabète ou illettrée. Donc, on en était à, est-ce que la législation antidiscrimination protège les personnes analphabètes ou illettrées ? Et il existe effectivement l'origine sociale, dont vous avez parlé, monsieur. Le problème avec l'origine sociale, c'est qu'on préjuge qu'une personne vient de telle ou telle origine pour en arriver à être analphabète ou illettrée. Et donc, nous, en tant que travailleurs à UNIA, c'est très difficile pour nous d'aller cocher origine sociale quand une personne nous dit « Bonjour », ce qui arrive très peu, on vous l'expliquera, mais « Bonjour, je suis en situation d'analphabétisme et je n'ai pas accès à telle chose. » C'est vraiment un pas d'aller noter origine sociale alors qu'on n'en sait rien d'où cette personne vient, on n'a pas eu la discussion avec elle. Et ça faisait quand même un certain temps qu'on était en grosse négociation pour avoir un nouveau critère, qui est le critère de la condition sociale, qui est le critère de la situation socio-économique d'une personne, mais toute situation dans laquelle est une personne. Et ce qu'on a fait, puisqu'on était en négociation politique pour que ce critère soit intégré dans les différentes législations, il y en a tellement, Sébastien vous l'a dit, qu'à chaque fois on doit aller discuter à différents niveaux. On a obtenu que le critère de la condition sociale soit intégré dans les législations, en tout cas celles qui nous parlent le plus dans les situations rencontrées. Et ce qu'on demande systématiquement, c'est que ce critère soit exemplifié dans les travaux préparatoires. Donc, par exemple, passé judiciaire, par exemple, personne en situation d'analphabétisme ou d'illettrisme, par exemple, sans abrisme ou sans chez-soi. Donc, c'est vraiment le critère qui va nous aider pour pouvoir intervenir dans les dossiers dans lesquels une situation de personne analphabète ou illettrice présente. Parfois, on ira aussi sur le handicap si la personne est en situation de handicap. Et parfois, on ira aussi sur origine sociale si la personne, si on a une discussion avec la personne et qu'elle nous explique que c'est son origine sociale qui a joué. Donc, dans notre démarche, on s'est dit, ok, lire et écrire vient nous demander si une personne en situation d'analphabétisme est discriminée. Oui.
Et vous dire chez des
gens du voyage. Pardon, gens du voyage. On essaye aussi de les mettre dans le critère condition sociale. Ça dépend. Donc, quand l'origine ethnique peut être utilisée, on utilise l'origine ethnique. Je vais vous l'expliquer parce que c'est plus fort. C'est un critère qui est plus fort au niveau de la justification. Si pas, on les met aussi dans la liste non exhaustive de la condition sociale pour être sûr qu'ils soient protégés par la législation.
Donc voilà, on a vu les critères. Maintenant, posons-nous un peu la question par rapport au domaine d'application de la législation antidiscrimination. Dans quel domaine ça s'applique ? Alors, on va voir que vous voyez que ça s'applique dans l'emploi, dans l'enseignement, dans le logement, sur Internet, par rapport aussi au discours de haine en ligne, etc. Le bien et service, qui est un domaine très large qui englobe beaucoup, beaucoup de choses, le banque et assurance, le RECA, etc. Police, justice, soins de santé, loisirs, médias. En fait, ça s'applique dans tous les domaines de la vie, sauf dans la sphère privée. Ce qu'il se passe dans la sphère privée, si quelqu'un vient chez nous toquer en disant « Voilà, je suis victime de discrimination au sein de ma famille, au sein de mon groupe », eh ben, on ne va pas pouvoir faire grand-chose. Malheureusement, ce sera terminé. Alors, le problème en Belgique, c'est que tout est compliqué, évidemment, institutionnellement. Et donc, vu qu'il y a une multiplication de législation fédérale, et puis il y a une régionalisation, une communautarisation, et donc chaque entité a pris à adopter sa propre législation, on voit qu'en fait, certains domaines sont liés à telle entité plutôt qu'à telle entité. Ici, on voit par exemple que s'il y a un problème dans le domaine des banques, des assurances, de l'ORECA, de la santé et de l'emploi, eh ben, ça se rapporte à la législation fédérale, même si vous êtes en région wallonne. La particularité, et ça c'est quelque part notre chance, c'est que la Flandre s'est retirée d'UNIA, donc on n'est plus compétent pour toutes les matières qui sont régionalisées proprement flamandes, par exemple le logement, l'enseignement, on n'a plus rien à dire, mais l'emploi, par exemple, reste au fédéral et nous restons compétents pour le fédéral. Donc, on reste compétents pour pas mal de dossiers qui se passent, qui se déroulent en Flandre. Donc, on est quand même encore en Flandre. Vous avez un problème avec les services publics, alors là, il faudra c'est par rapport, en fait, à la législation propre à l'entité dont dépend le service public. Si c'est le SPOE, par exemple, en région wallonne, bon, ce sera la législation wallonne. L'enseignement, étant donné qu'on a communautarisé, s'il y a un problème dans l'enseignement du côté francophone, bah, ce sera la Fédération Wallonie-Bruxelles. Donc voilà, il y a toujours une petite gymnastique que doivent faire les juristes qui analysent les dossiers, parce que le pays est compliqué, tout le monde le sait, et la lasagne institutionnelle complique tout.
Et donc justement, dans notre petite démarche fracture numérique, public analphabète ou illettré, on a repris tous les exemples qui se trouvaient sur le site, de les réécrire, de qu'est-ce qu'on rencontre comme situation problématique. Et la plupart se trouvaient dans le domaine des biens et services et des services publics. C'est les rencontres avec les services publics, c'est les banques, c'est les assurances, etc. Et donc, on est vraiment sur de la législation fédérale, généralement. Et ce qui est vraiment top, c'est que la condition sociale a été intégrée dans la législation fédérale.
Alors, passons maintenant, on a vu les critères, on a vu le domaine d'application. Maintenant, il y a des comportements interdits, ils sont au nombre de 6. On va les voir. Il y a la discrimination directe, la discrimination indirecte, le refus d'aménagement raisonnable. Anaïs vous en a déjà parlé, pour les personnes en situation de handicap et aussi les personnes ayant des problèmes de santé. Il y a le harcèlement, il y a l'injonction à discriminer et la discrimination par association. Alors on va les passer en revue. Alors là, on a une situation par exemple, pour vous. Donc c'est « Entrez monsieur, je vous en prie ». Vous voyez un monsieur en chaise roulante devant un commissariat. On est face à quelle situation, à quel comportement interdit ?
Refus d'aménagement.
Voilà, le refus d'aménagement raisonnable. Donc le refus d'aménagement raisonnable, l'idée c'est de permettre en fait un traitement égal à des personnes qui sont dans des situations particulières différentes. C'est une obligation. L'idée est vraiment de permettre à ces personnes en situation de handicap ou qui ont des problèmes de santé de pouvoir accéder à la vie en société dans ces différents domaines, pouvoir travailler, pouvoir vivre en autonomie dans un logement, en demandant par exemple comme aménagement raisonnable que l'appartement soit aménagé au niveau de sa salle de bain, au niveau de sa cuisine pour que la personne puisse être autonome, de pouvoir permettre à la personne de pouvoir se déplacer facilement. Alors c'est considéré le refus d'aménagement raisonnable comme une discrimination, sauf si la personne qui doit adopter cet aménagement raisonnable estime, et si on estime que la charge est disproportionnée, c'est-à-dire la charge, ça serait par exemple le coût d'un aménagement. Si vous deux, par exemple, voilà, il y a une personne en chaise roulante et que cette personne puisse accéder pleinement aux locaux, il faut mettre un ascenseur, est-ce que c'est proportionné ou est-ce que c'est disproportionné? Donc là, il faut pouvoir juger de la chose. Il y a des guidelines qui peuvent aider à décider si on est dans quelque chose de raisonnable, proportionné ou pas. Il faut savoir que quand une personne doit, par exemple, prendre des aménagements, elle peut se faire accompagner et aider par des services spécifiques. Par exemple, en Wallonie, il y a la VIC qui peut mettre des moyens à disposition pour ces aménagements et les coûts qui seraient nécessités pour cet aménagement. Alors, les aménagements peuvent être de différentes natures. Aménagement matériel, par exemple une rampe d'accès à l'entrée d'un bâtiment comme on a vu devant le commissariat, eh bien, organiser à côté de l'escalier une rampe d'accès, ou bien une alerte lumineuse, par exemple quelqu'un qui serait sourd, par exemple s'il y a un incendie qui se déclare, bah, pour cette personne spécifiquement il y aura des systèmes d'alerte lumineuse dans le bâtiment. Donc ça c'est des adaptations qui sont faites, mais les aménagements peuvent être aussi de nature immatérielle, par exemple adapter le règlement pour amener un peu plus de flexibilité dans le règlement pour que cette personne puisse venir travailler, par exemple, sans que ce soit trop lourd pour elle, ou bien pour une personne, par exemple, qui aurait du mal qui serait malvoyante, que l'information qui est transmise au sein de l'institution où elle travaille puisse être facilement lisible pour elle et que la communication soit en langage simple, avec des pictogrammes, etc.
On reçoit vraiment beaucoup de dossiers, et ça, ça pourrait être intéressant pour votre public, peut-être, dans l'enseignement, des demandes d'aménagement raisonnable dans l'enseignement pour des jeunes pour qui l'enseignement est difficile, et donc qui demandent vraiment à ce que des aménagements raisonnables soient mis en place, et UNIA suit ces dossiers-là, soutient. Donc il y a des procédures qui sont mises en place. Quand la procédure ne fonctionne pas, on intervient, on interpelle. Donc c'est vraiment des dossiers dans lesquels on travaille pas mal.
Alors, on nous Christophe, refuser un emploi pour cause de surpoids. On est dans quel type de discrimination ?
Direct.
Direct. Tout le monde est d'accord ? Ouais. Voilà. Discrimination directe. Donc là, c'est un traitement différencié d'une personne entre deux personnes qui sont dans une situation comparable, et il y a une personne qui va être traitée différemment sur base d'un critère. Donc ça, il y a plein d'exemples, hein. On le voit dans le domaine de l'emploi, du logement, dans le domaine de l'emploi, entre deux candidats, si un candidat d'origine étrangère, cette personne n'est pas prise, et donc c'est lié à sa couleur de peau, par exemple, ou bien dans le logement, une personne homosexuelle qui serait écartée en tant que candidat. Donc ça, évidemment, c'est très, très courant.
Excusez-moi, j'ai une question. Par rapport aux critères, justement, est-ce que certains, aux yeux de la loi, sont plus graves, entre guillemets ? Par exemple, le handicap, mais est-ce qu'il y en a d'autres ?
En fait, c'est pas qu'ils sont plus graves. La législation ne dit pas tel critère est plus important que d'autres, mais il y a des justifications différentes en fonction des critères. Ça, je vous l'expliquerai au niveau de la flèche justification. Et il y a des critères qui sont protégés dans certains domaines parce qu'il y a des directives européennes. Et donc vous avez la force européenne qui parfois intervient alors que d'autres critères sont vraiment internes à la Belgique. Mais à aucun moment on dit tel critère est plus fort qu'un autre. Oui.
Mais comment est-ce que vous procédez lorsque vous avez quelqu'un qui est dans plusieurs situations ? Parce qu'on peut être en surpoids, avoir des problèmes dus à son origine sociale, etc., etc. Comment procédez-vous alors ? Vous les hiérarchisez ? Vous analysez tous les critères ?
Oui, ça s'appelle la discrimination multiple. Il y a plusieurs formes, on va en parler aussi. Et ça peut être soit des critères qui s'additionnent, soit des critères qui se croisent, hein, l'intersectionnalité, on en parle beaucoup. On analyse vraiment chaque critère et on est en train d'essayer aussi de plaider en vue d'une modification législative par rapport à la justification pour que le fait qu'il y ait plusieurs critères puisse parfois être plus fort. Mais on pourra en discuter une vraie justification.
Qu'est-ce que vous entendez par handicap ?
Quel handicap ?
Qu'est-ce que vous entendez par le mot handicap ? C'est quoi la définition du mot handicap ?
La situation de handicap ?
Le mot handicap entre la définition que nous, le ministère, on emploie, que les régions emploient, c'est parfois pas la même notion.
Nous, on emploie vraiment la définition de la convention.
Donc c'est la convention ONU ?
Oui, ouais, ouais, nous, c'est la convention ONU qui est notre cadre. Ouais. Okay.
Vous voulez que je la remette ou vous la connaissez ? Elle est là, on l'avait vue, non ? Ici. Donc, c'est des personnes qui présentent des incapacités durables physiques, mentales, intellectuelles, sensorielles et dont l'interaction avec diverses barrières peut faire obstacle à leur pleine et effective participation à la société sur la base de l'égalité avec les autres. Et donc, c'est pour ça, vous voyez, quand je vous ai dit, il y a des personnes qui sont en situation d'illettrisme, d'analphabétisme et qui sont en situation de handicap, c'est sur la base d'une étude française qui disait que 20% des jeunes adultes en situation d'illettrisme présentent une dyslexie. Et la dyslexie, c'est du handicap. Il n'y a pas d'autres questions ?
Vous aurez noté que la juriste du duo, c'est bien Anaïs. Hein. Si il y a une question juridique, c'est vraiment vers Anaïs qu'il faut aller. Alors, ici, dans quelle situation sommes-nous ? Désolé, les chiens sont interdits dans notre établissement.
Indirect,
mais vous êtes vraiment incollable. Discrimination indirecte, donc là, c'est une mesure qui est prise qui semble complètement neutre parce qu'elle s'applique uniformément à tout le monde, mais en fait ça défavorise certaines personnes qui sont dans une situation différente. Exemple, les hôpitaux, il est marqué très clairement, voilà, les chiens sont interdits pour des raisons d'hygiène, etc. C'est compréhensible, mais il y a des personnes qui ont besoin d'avoir un chien, qui ont un chien tout le temps dans leur vie quotidienne pour les aider parce qu'elles sont aveugles ou présentent une autre difficulté. Et donc là, évidemment, il y a une discrimination indirecte. Un autre exemple pourrait être une femme qui est traitée en chimiothérapie, donc qui a perdu ses cheveux et qui met un bandana par exemple sur sa tête pour dans cette situation, et qui voudrait rentrer par exemple dans une boîte de nuit où on dit les couvre-chefs sont interdits. Bah là, on se met dans une situation de discrimination indirecte parce que cette femme présente une particularité passagère. Voilà.
Et enfants interdits.
Oui, on entend beaucoup ça.
Ouais,
est-ce que c'est dans les restos, dans d'autres parents, on dit enfant interdit, est-ce que ça vient à quoi?
On a reçu plein de signalements là-dessus.
Oui, parce que ça commence à sortir aussi.
Ouais. Ouais. Notre réponse à l'heure actuelle, on a énormément de dossiers, hein. On n'a pas mis les chiffres de dossiers, on a vraiment beaucoup de dossiers, c'est une charge de travail qui est importante. On met des priorités au niveau des domaines. Et donc, dans les biens et services, l'ORECA fait partie des biens et services, on a mis des priorités sur le logement, banque, assurance, enfin, les choses sans lesquelles c'est vraiment difficile de pouvoir vivre. Et l'ORECA, c'est un peu en dessous. Et donc, certains critères avec l'ORECA, par exemple le racisme, là, on intervient. C'est no way. Par contre, l'âge, il y a d'autres restos. C'est un resto sur 20 restos, 30 restos.
Quand on est vieux, on ne peut plus aller manger au
restaurant. Non, c'est les enfants. Et en fait, vous allez voir, on va discuter de la justification. On est sur la justification. Donc si on interpelle ce restaurant, il nous explique, mais économiquement, les enfants, c'est une horreur. Ils abîment nos fauteuils, ils font du bruit. Nous, on a un public de personnes âgées. Enfin, voilà, il y a des discussions. Et donc, on est sur la proportionnalité dont on discutera tout à l'heure. C'est des dossiers dans lesquels on dit, sorry, nous on n'intervient pas, vous avez toujours la possibilité d'aller en justice si vous voulez attaquer le. Et c'est un juge qui devra trancher. Nous on n'a pas vraiment d'avis sur la question.
Mais c'est vrai, c'est un problème. Une question qui se pose de plus en plus souvent.
Mais là vous êtes sur de la directe, hein. C'est pas de l'indirect, c'est no way les enfants. Mmh. C'est pas.
Alors voyons une autre situation. Miguel vient d'Amérique du Sud. Et donc. Il a l'air d'être entouré de collègues qui font des blagues, qui se moquent. Voilà, on est dans la situation de harcèlement. Donc le harcèlement a vraiment un impact sur la dignité de la personne et a tendance à créer pour la personne harcelée un environnement qui soit vraiment négatif. Intimidant, hostile, dégradant, humiliant, offensant. Donc ça, le harcèlement, c'est ce cadre-là. Et alors, il faut savoir que le harcèlement, dans le domaine du travail, c'est la législation sur le bien-être au travail qui rentre en ligne de compte, mais hors travail, c'est la législation antidiscrimination. Je regarde toujours Anaïs dans le blanc des yeux en disant « Est-ce que je ne me trompe pas ?» sur les législations. Alors ici, des instructions avant l'entretien d'embauche, vous me prenez quelqu'un comme nous. Dans quoi est-on ?
De l'injonction.
Voilà, c'était le dernier. L'injonction à discriminer, donc, c'est enjoindre quelqu'un d'écarter quelqu'un ou de discriminer. Alors ici, on voit... C'est plutôt centré sur le logement. L'exemple d'avant, c'était l'emploi. Donc, il y a plusieurs candidats. Et un membre du jury, qui est peut-être le président du jury, dit aux autres, bon, les gars, on choisit tel profil, telle personne, et on écarte les autres. Là, dans le domaine du logement, on peut voir qu'un propriétaire, un bailleur, peut enjoindre l'agence immobilière à qui elle confie la location de son bien en disant « Vous me choisissez tel type de personne, je ne veux pas un tel vous écarter. » Alors, il y a une particularité, c'est que les agents immobiliers étant des professionnels ont une responsabilité particulière et une fonction d'exemple. Ça existe dans d'autres domaines, mais donc eux, s'ils sont pris la main dans le sac, on va les poursuivre de manière sans doute plus dure. Alors, on voit aussi qu'un propriétaire peut donner une injonction à son locataire sortant qui doit retrouver un locataire en disant, tu choisis un tel. Là, j'avais un peu plus de mal, un locataire au propriétaire, c'est un locataire dans une maison, il y a plusieurs immeubles, d'appartements qui dit...
Oui, ça arrive souvent que des locataires disent « Oui, en dessous, je veux pas de noir » aux propriétaires. Et,
d'accord.
Ils sont potes.
Donc voilà.
Qui fait le signalement ?
Pardon ?
Dans une situation, c'est qui fait le signalement ?
Parfois...
qui est mis sous pression ?
Oui, c'est une bonne question.
Ça dépend vraiment. Parfois, donc... Quand c'est le locataire sortant, il y a des locataires qui viennent me dire, il y a mon propriétaire qui m'a dit que je pouvais accepter qu'un type de personne, je suis hyper mal. Et alors souvent, on attend d'intervenir, on attend qu'ils soient partis, qu'ils aient récupéré leur argent pour pouvoir intervenir, parce que sinon c'est hyper compliqué pour eux, ils sont dans une situation compliquée.
Mais c'est super difficile à prouver ce genre de choses, je suppose, dans le logement.
Ouais. Il y a tout un... On pourra en parler après si vous voulez, on sort un peu du cadre de cette formation-ci, mais on est à fond sur le testing. Je ne sais pas si vous avez entendu, en région Wallonne, il y a un nouveau décret qui permet aux agents d'effectuer des testings. Ça existe déjà à Bruxelles. Dans le logement, la preuve, elle est difficile. On dit à tout le monde enregistrer, 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 parce que l'enregistrement est accepté en justice. Les enregistrements et audio et vidéo. Mais effectivement, on essaye de mettre en place une procédure qui permet à des personnes de créer une présomption qu'il y a discrimination ou qui enregistre. Et alors, il y a des propriétaires qui envoient des mails en discriminant.
Oui, mais est-ce qu'on peut faire ça? Parce qu'en théorie, quand on vous enregistre, on est censé vous prévenir.
Non, pas au niveau de la législation anti-discrimination. Sur notre site, on a des super décisions de justice, dont de la Cour d'appel de Bruxelles.
Ah oui.
Et en fait, ça date vraiment de l'arrêt Antigone de la Cour de cassation, qui dit que parfois, l'apport de la preuve, il n'est pas des plus tip-top. Mais c'est pour un but légitime, objectif,
c'est
etc.
Ça.
Et donc l'enregistrement ne peut servir qu'à démontrer qu'on a été discriminé. Il ne faut pas que les personnes commencent à aller sur Internet et dans les réseaux sociaux en disant « Regardez, c'est horreur !» Parce que là, il y a un très gros risque de diffamation et de procédure au niveau pénal. Mais si l'enregistrement est utilisé à des fins vraiment de démontrer qu'on a été discriminé, c'est accepté. Vidéo et audio. Et ça, c'est une dernière forme de discrimination.
Par association, celle qui vient
c'est par association qui n'était pas mise avant. En fait, c'est nouveau. On s'est rendu compte qu'il y a plein de situations, enfin plein, c'est quand même relativement rare, mais il y a des situations dans lesquelles une personne est traitée différemment, non pas parce qu'elle a un critère protégé, mais parce qu'elle est en rapport avec une personne qui a un critère protégé et que c'est ce rapport qui fait qu'elle a qu'elle vit une situation particulière au boulot. Et c'est l'histoire d'une femme qui se fait licencier parce qu'elle a un enfant en situation de handicap. Et donc, parce qu'on présuppose que l'enfant en situation de handicap va lui demander plus de temps, plus d'absence, etc., on la licencie. Vous voyez, c'est pas elle qui est en situation de handicap, c'est son enfant. Et donc, c'est par cette formule-là et par cette forme-là qu'on réussit à protéger ces situations-là. Mais maintenant, il existe le critère de la responsabilité familiale. On vous a dit, c'est composition ménage ou responsabilité familiale. Et responsabilité familiale peut être très très large. Donc ça peut être le fait qu'on doive s'occuper d'un parent, enfant ou plus âgé aussi. Et donc ça donne moins d'intérêt à cette discrimination par association. Et puis, monsieur, vous souleviez la question tout à l'heure, il y a la discrimination multiple qui nous occupe beaucoup. Là, on travaille vraiment beaucoup là-dessus. Sur la discrimination multiple et la discrimination intersectionnelle. Donc dans la discrimination multiple, c'est quand dans une situation, une personne est protégée par plusieurs critères. Ces critères, ils peuvent s'additionner. Ça veut dire que ça peut être une mère qui est en situation de handicap. Donc elle a le fait d'être maman, vous avez le genre, et puis vous avez la situation de handicap, et elle vit une situation qui, parce qu'elle est en situation de handicap et parce qu'elle est mère, pose problème. Et puis, vous avez la situation de, parce que les critères s'entrecroisent, ça crée comme une nouvelle forme de critère, si vous voulez, qui n'existe pas dans la liste de critères, qui ne peut être expliquée que par l'entrecroisement des critères, qui crée de la discrimination. Et ça, c'est une notion qui vient des États-Unis. Je vais vous l'expliquer avec l'exemple qui est parfait. C'était dans une société... Les hommes noirs étaient engagés, les femmes blanches étaient engagées, mais c'est les femmes noires qui étaient refusées. Et donc, il fallait absolument qu'il y ait une addition des deux critères et qu'ils s'entrecroisent. C'est le fait d'être femme noire qui était problématique. Et en fait,
toute l'intersectionnalité, on en parle beaucoup, je suis sûre que vous en avez entendu parler, parce que ça parle des jeux de pouvoir. Ça parle de la suprématie masculine, blanche, capitaliste et validiste. Et donc, vous avez vraiment cette réflexion sur dans quelle société vit-on, où sont les jeux de pouvoir. Est-ce que la législation antidiscrimination peut répondre à tous ces jeux de pouvoir et comment ? Ça, c'est... Et j'imagine qu'il y a plein de situations que vous, vous vivez avec votre public qui sont dans cette situation d'intersectionnalité. Ce n'est pas uniquement toujours des personnes analphabètes ou illettrées. Ça peut être plusieurs choses ensemble qui, parce qu'elles sont ensemble, créent une situation problématique ou discriminatoire pour une personne. On est dans la flèche. Donc, on se rappelle, fracture numérique pour les personnes analphabètes. On avait le critère, on avait le domaine d'application, puisque je vous ai dit que c'était généralement en matière de biens et services. On pourra discuter après de vos observations du terrain, mais en tout cas, ce que Lire et Écrire nous a passé comme signalement, c'était vraiment au niveau des biens et services, quelques-uns en enseignement. Est-ce que c'est un comportement interdit ? Donc, le fait de digitaliser la société, on est dans quel type de comportement interdit ? Distinction directe, indirecte, refus d'aménagement raisonnable, harcèlement, injonction.
Indirect.
Refus d'aménagement raisonnable, ce serait que pour la situation de handicap, et donc là, on n'arrive pas à la saisir s'il n'y a pas de handicap. C'est une distinction, nous, on a estimé que c'était une distinction indirecte. C'est une règle qui est apparemment neutre. Youpi, l'Union européenne nous dit qu'on doit se digitaliser. Allons-y, en cœur, on va digitaliser toute la société. On est hyper à la mode. Mais en fait, cette règle qui est apparemment neutre a un impact, a un effet négatif sur certains groupes de personnes protégées par un critère. Donc, dans notre flèche, on en était là. Il ne nous restait plus qu'à se demander est-ce que c'est justifié, justifiable par la législation ? Et ça, c'est encore une difficulté un peu dans la législation antidiscrimination, c'est qu'en fonction de la législation et du domaine dans lequel vous vous trouvez, les justifications sont différentes. Il y a différentes justifications possibles. Par exemple, en matière d'emploi, il existe l'exigence professionnelle déterminante, qui n'existe pas en biens et services. En matière d'emploi, vous pouvez dire « je cherche une personne noire pour jouer un rôle de personne noire ». En biens et services, vous ne pouvez pas dire « je cherche un locataire noir ». Donc, parce qu'au niveau de l'emploi, il existe cette exigence professionnelle déterminante, encore à analyser, hein, parce qu'on pourrait dire « c'est absolument pas déterminant d'avoir une personne noire ». Autant en matière de biens et services, tout ce qui est critère d'irratio, c'est jamais justifiable. Pourquoi ? Parce que c'est d'office basé sur des préjugés. À Bruxelles, ce qu'on entend, c'est « ah ben oui, ben les noirs, ils prennent le plancher, ils mettent le feu ». Ou ils sont beaucoup plus violents, enfin, ou j'ai eu une mauvaise expérience. Et donc, toutes les justifications que vous auriez sur un refus au niveau des biens et services, sur des critères d'irratio, ce seraient des justifications racistes basées sur des préjugés raciaux. Et donc, la justification n'existe pas. La loi est logique, en fait. Hein. Elle s'est dit, dans quel cas on peut éventuellement avoir une justification qui fonctionne et dans quel cas on ne peut pas. Par contre, la nationalité, c'est possible. Refuser quelqu'un en matière de biens et services sur la base de la nationalité, il peut y avoir une justification. Donc on sera dans la démarche, est-ce que c'est justifié ? Et là, la réflexion c'est, est-ce que la justification est objective et proportionnelle ? Est-ce que l'objectif qui est recherché fonctionne avec l'atteinte qui est faite ? Est-ce qu'il y a une proportionnalité ? Et c'est là qu'on en est aussi au niveau des biens et services et de la fracture numérique. Est-ce que mettre en place des services digitalisés alors qu'ils portent atteinte à un certain public, est-ce que c'est justifié ? Est-ce que c'est proportionnel ? Et toute la réflexion, toutes les discussions éventuellement judiciaires qu'il va avoir, ça va être là-dessus. Est-ce que c'est proportionnel ? Est-ce que les choses qui sont mises en place sont plus ou moins graves que l'atteinte aux droits humains qui est portée ? Donc c'est le test de proportionnalité. Et c'est ce qui nous occupe le plus quand on traite des dossiers, parce que les autres démarches, ça fait oui, non, oui, non, oui, non. Et puis c'est la réflexion sur la justification, qui peut être parfois assez subjective. Au niveau de la justification, il y a une clause qu'on appelle la clause de sauvegarde, qui parfois nous empêche d'aller plus loin en saisissant la législation antidiscrimination. C'est que le législateur se dit, ouais, mais en fait, moi je vais prendre des lois qui parfois discriminent, qui parfois créent des distinctions, tout ce qui est au niveau de la nationalité, il y a des distinctions énormes sur les critères raciaux, sur le fait d'être étranger, etc. Et le législateur va dire, une IA ne peut pas systématiquement venir me dire c'est discriminatoire. Donc, dans toutes les législations, il y a une clause qui dit, quand c'est la loi qui crée cette distinction de traitement, c'est pas une discrimination, c'est nous, législateurs, qui prenons cette législation. Donc, quand l'État dit la pension, c'est à 65 ans, et quelqu'un de 66 dit, moi, je veux la pension, c'est l'État qui l'a fait, clause de sauvegarde. La législation antidiscrimination ne s'applique pas. C'est donc d'autres outils qu'on doit utiliser, par exemple, la Cour constitutionnelle ou les textes internationaux. On en parlera plus tard pour les possibilités de piste. Donc, on en est dans notre avis, on a fait cette petite flèche et on se dit, il y a une distinction indirecte et vraiment ce qui est mis en place par le législateur, le fait que certains groupes vulnérables n'aient pas accès à certains services qui parfois sont essentiels, est problématique, ne nous paraît pas proportionné. Ce qu'on fait comme démarche, c'est qu'on va voir nos signalements. Et dans tous les signalements qu'on trouve, il y en a plein sur la fracture numérique, mais il y en a très très peu sur, ou pas du tout, on en parlera après, sur le fait d'être analphabète ou illettré. Donc les personnes, en tout cas, n'expliquent pas qu'elles sont discriminées parce qu'elles sont analphabètes ou illettrées. Et ça, c'est une grosse problématique qu'on ressent à l'heure actuelle, et c'est pour ça qu'on travaille énormément dessus, c'est que parfois, une IA a tendance à être dans sa tour d'ivoire, c'est un retour qu'on a parfois de la part des associations de terrain. Vous voyez comment on fonctionne. Vous voyez qu'on fonctionne grâce à des signalements qui nous sont adressés. Et donc, si on n'a pas ces signalements, nous, on ne bosse pas sur la matière. On a le politique qui vient nous parler, puis on a les signalements, mais si on ne reçoit pas la matière, on ne peut pas travailler dessus. Là, on a travaillé sur le public analphabète ou illettré parce que lire et écrire est venu nous apporter une situation. Et donc, on se rend compte que le public vulnérable, parfois, on n'y a pas accès. Et c'est pour ça que on veut absolument mettre en lumière la vulnérabilité d'un certain type de public et qu'on veut mettre l'accent sur ces dossiers-là et sur ce travail structurel-là. Et on essaye d'aller un petit peu plus loin en disant, on trouve que dans certaines situations, il faudrait que la vulnérabilité soit analysée avant d'arriver à la décision. Il aurait fallu que on réfléchisse à la vulnérabilité d'une famille avant de l'expulser. Mais ce n'est pas dans la loi. La législation sur l'expulsion, donc par exemple, vous en avez peut-être entendu parler ici à Bruxelles, il y a une nouvelle ordonnance expulsion qui a été prise, ne dit pas on doit analyser la vulnérabilité d'une famille avant de l'expulser. Il y a des critères, mais on ne parle pas du type, de la particularité de la famille. Eh bien, nous on dit, on aimerait vraiment bien qu'il y ait cette petite obligation qui vienne de dire le juge, il doit quand même voir la situation de la famille, quels sont les critères, est-ce qu'il y a de l'intersectionnalité, quels sont les risques de sans-abrisme ou de sans-chez-soirisme, tout ça autour de la vulnérabilité. Et donc, on aimerait vraiment pouvoir travailler sur ces situations de vulnérabilité pour tenter, dans nos discussions politiques ou dans nos avis, à ce que cette vulnérabilité soit plus prise en compte. Et donc on a conclu, au niveau de la fracture numérique, qu'il y avait discrimination pour un certain type de public. C'est pas que les personnes analphabètes ou illettrées. Hein. Il y a les personnes en situation de handicap, les personnes socio-économiquement en difficulté, les personnes âgées. Donc il y a vraiment tout un public qui est touché de plein fouet par cette fracture numérique et c'est hyper problématique.
On a une idée du pourcentage ?
Des personnes touchées ? Oui, on n'a pas les chiffres ici, mais la Fondation Roy-Baudouin a rendu un avis incroyable. Et les pourcentages sont effarants. On est dans un pourcentage très important.
Une 35. Personne sur deux est en vulnérabilité.
Ouais. Est en difficulté de
numérique au niveau belge. Et alors, si on ajoute les critères socio-économiques, là,
ça aggrave.
Et le niveau de diplôme. Ouais.
Donc, voilà, justement, on arrive sur la fracture numérique. Qu'est-ce que c'est ? Alors, le document dont parlait Anaïs, c'est le baromètre de l'inclusion numérique qui est réalisé tous les X années par la Fondation Roy-Baudouin et qui est très intéressant parce qu'il fournit énormément de chiffres sur la situation dans le domaine du numérique et des publics qui en sont fort éloignés. Alors, la fracture numérique, c'est quoi ? Donc, c'est par rapport à trois éléments. C'est d'une part l'accès au matériel et à Internet. Tout le monde n'est pas capable de s'équiper avec les derniers matériels nécessaires pour avoir les applications, etc. Tout ça évolue très, très, très vite. Et donc, tout le monde ne peut pas avoir le smartphone avec les applications ad hoc ou avoir accès à Internet. On voit que dans les ménages défavorisés, il y a une famille sur cinq qui n'a pas Internet à la maison. Ça représente quand même 183 000 ménages. Donc ça, c'est des chiffres qui datent de 2021, de ce baromètre dont je vous parlais. Alors, il y a évidemment la maîtrise des compétences liées au numérique. Il faut, c'est pas tout d'avoir un smartphone, d'avoir un ordinateur. Il faut encore comprendre comment ça fonctionne. Et chaque fois, c'est différent, c'est compliqué de comprendre. Et je pense que tout le monde est confronté quotidiennement, si pas quotidiennement, à des nœuds et des incompréhensions sur la manière de faire. Et comme il était dit là, il y a 30 secondes, il y a un Belge sur deux qui est en difficulté numérique actuellement, et c'est pas seulement les personnes âgées ou les personnes, les jeunes aussi ont beaucoup de difficultés avec le numérique. Donc il y a vraiment un gros problème à ce niveau-là, et on voit que plus les familles sont défavorisées sur le plan socio-économique ou culturel, donc culturel c'est au niveau des diplômes et de l'enseignement, plus ces familles ont des difficultés. Alors, la troisième partie, c'est l'accès aux services digitalisés. Ben voilà, il y a les administrations, il y a les services bancaires, les services disparaissent, les antennes disparaissent, tout est mis en digital et il faut y parvenir et de plus en plus de personnes y arrivent. Voilà, alors, combien de signalements ? On s'est posé la question il y a quelques temps quand on a commencé à travailler sur la vie. On s'est dit, mais en fait, on a combien de signalements chez UNIA qu'on peut relier à la fracture numérique ? Et on est arrivé à un chiffre plus ou moins à 200, ça a pu augmenter un petit peu, mais ça reste extrêmement bas. Ce qui est assez curieux vu qu'il y a tellement de gens qui sont confrontés à, à des situations de problèmes de fracture numérique. Alors, on a commencé à réfléchir un petit peu, mais pourquoi a-t-on si peu de signalements là. Alors on se dit que beaucoup de gens sont confrontés à des problèmes, mais n'arrivent pas à relier ce problème à un problème de fracture numérique et de difficulté d'accès aux outils digitaux et à pouvoir bénéficier de ces services en ligne. Donc ça, c'est une chose. Il y a aussi un problème d'identification du fait que, en fait, ce problème de ne pas pouvoir accéder aux services numériques et d'en être coupé, en fait, ça s'apparente à une discrimination. Il y a beaucoup de gens qui ne font pas le lien, et c'est compréhensible, c'est tout à fait compréhensible. Mais donc ça veut dire qu'il y a beaucoup de gens qui ne vont pas chez UNIA, aussi parce qu'ils ne connaissent pas UNIA, mais aussi parce qu'ils ne se disent pas, ils ne font pas le lien en se disant « Mais en fait, ma difficulté d'accéder aux outils numériques, aux services en ligne, ça serait une discrimination, donc UNIA pourrait m'aider dans ma situation. » Il y a beaucoup de gens qui... Et donc ces gens n'arrivent jamais chez UNIA. Même chez UNIA, je pense qu'il y a quelques années encore, on avait des dossiers épars et on ne faisait pas le lien en se disant « Mais en fait, tous ces dossiers-là, c'est vraiment en lien avec la fracture numérique. » D'ailleurs, on a un programme qui s'appelle Métis, qui est utilisé par tous les collaborateurs qui traitent des dossiers. Je pense qu'il n'y avait pas d'onglet « fracture numérique » il y a quelques années. C'est à partir du moment où on a fait nous-mêmes une réflexion interne et on s'est dit « Mais en fait, là, il faut vraiment... » qui est une possibilité de cocher la chose pour avoir une vision de la situation.
Voilà. Excusez-moi, je pense qu'aussi, pour moi, il y a une autre raison aussi, pas pour les personnes analphabètes, mais plutôt les personnes en situation de maîtrise. Il y a encore cette honte qui existe à l'heure actuelle. On n'a pas envie de le partager, on n'a pas envie de le dire, on se sent coupable de cette discussion, de ça.
Il faut avouer, oui.
Oui.
Il faut oser, parce que la société renvoie encore une image négative. Mais, et donc, on n'ose pas le dire, peut-être ça aussi.
C'est tout à fait vrai. Des collègues disaient récemment, que dans certains dossiers, c'était très difficile de savoir quel était le point de départ du problème de la personne, parce que la personne tournait autour du problème, mais sans oser dire à un moment, en fait, le problème, c'est que... Voilà, je suis analphabète, je ne sais pas. Et donc, il fallait trouver des moyens pour arriver sans heurter la personne, mais pouvoir mettre à jour ce problème qui était le problème de départ, en fait. Alors, on a un peu été regardé dans nos dossiers, qu'est-ce qui revenait régulièrement comme type de signalement. Bon, on voit par exemple que la disparition des funds banking liés aux banques a mis en difficulté les personnes handicapées, mais aussi les personnes âgées qui avaient une certaine autonomie grâce au phone banking. Et une fois que ça a disparu, se sont retrouvées assez mal prises, d'autant que les guichets avaient tendance à disparaître et qu'il n'y a plus personne qui répond au téléphone dans les banques. La disparition des guichets, évidemment, les extraits de banque papier aussi, puisque maintenant, voilà, si on ne vous envoie pas les extraits de banque, il n'y a plus de guichet où aller tirer. En fait, il faut aller sur une application pour voir où vous en êtes. Si tout ça n'est pas accessible ou difficilement accessible, ben, ça met de nouveau des gens en situation de difficulté. Le fait de prendre des rendez-vous ou d'annuler des rendez-vous chez certains médecins dans les hôpitaux, j'ai l'impression qu'il y a encore moyen d'avoir une ligne fixe. Mais souvent, c'est difficile parce qu'il y a beaucoup de gens qui appellent et c'est encombré, c'est compliqué. Mais il y a même des centres de santé où pour prendre rendez-vous, il faut aller sur leur site et passer par un formulaire ad hoc pour la prise de rendez-vous. Donc c'est très compliqué. Et chaque service a des applications, a des formulaires différents chaque fois. Donc il faut comprendre, c'est très compliqué.
On a eu un dossier au niveau d'un hôpital où la prise de rendez-vous était possible par téléphone, mais l'annulation ne pouvait se faire que par mail ou par courrier. Et c'était des personnes âgées qui étaient vraiment dans une situation disant « je vais devoir payer la consultation parce que je ne sais pas l'annuler ». Et on intervient vraiment dans ces dossiers-là. Donc on a négocié avec l'hôpital qui a supprimé cette clause et qui a permis qu'on puisse annuler par téléphone aussi.
Bon, alors il y a ça qui revient. Bon, évidemment, le confinement et le Covid a accéléré la chose. Mais le nombre de magasins aujourd'hui, de cafés, de bars, etc., où on ne peut plus payer en liquide, ça augmente, ça explose partout. C'est interdit maintenant, mais il y en a plein qui le pratiquent. Disons, plastique only, c'est très très courant, et donc ça met en difficulté plein de gens qui fonctionnent encore vraiment avec l'argent liquide. Les guichets de gare, il y a plein de gares, de petites gares, où on a supprimé purement les guichets. Au mieux, on a installé une borne, mais on sait bien que, par exemple, des personnes en situation de handicap ont des difficultés à utiliser, n'arrivent pas à y accéder. Alors, qu'est-ce qui leur reste? C'est d'acheter leur ticket, si elles ne parviennent pas à le faire via leur application, à l'acheter sur le train, mais là, avec une majoration du prix. Donc, de nouveau, problème.
Et il y a aussi des tickets qui sont, j'imagine que vous en avez entendu parler, moins chers si on les achète via l'app. Ça, c'est un dossier sur lequel on est. N'hésitez pas si vous avez...
Et là, il y a aussi le fait, de nouveau, c'est les achats en ligne de services ou de biens, où en fait, si vous les achetez en ligne, il y a une réduction de prix ou bien il y a une extension de la garantie sur le produit. De nouveau, là, souci. Bon, il y a évidemment le problème des services publics, où là, bah voilà, la manière d'accéder à bien des services est devenue très très compliquée. Souvent, il n'y a plus les guichets, souvent il n'y a plus le téléphone, il faut envoyer un mail, mais c'est souvent même pas purement des mails simples, il faut aller sur Iris Box et des box et des machins avec des codes. Enfin, c'est à se taper la tête au mur. J'en parle parce que moi, je arrive pas, je pédale complètement. Il y a les CPS, et ça, je pense que ça a été accéléré au moment du Covid, mais prise de contact avec un assistant social se fait uniquement par mail. Ça a mis plein de gens...
Ça n'a pas de sens, parce que c'est là, c'est un public particulier.
Ben, on est bien d'accord, on est complètement d'accord, mais donc ça se fait, ça se pratique. Et donc, il y a des gens qui avaient l'habitude d'aller au guichet, demander un rendez-vous, et rentrer chez eux après, puis revenaient pour le rendez-vous, et donc maintenant, ils doivent envoyer un mail. Et ça coupe, évidemment... Et alors, il y a le problème dans l'enseignement où, en fait, il y a de plus en plus d'écoles où la communication entre l'école et les parents se font via des applications. Il n'y a plus de stencil à l'ancienne qui était glissé dans le journal de classe où on avait les infos. Donc ça, il faut être sur ces applications. Mais qui plus est, dans certaines écoles, les devoirs et les leçons sont transmises directement par des applications. Donc les enfants qui n'ont pas... ni d'ordinateur, ni accès à Internet à la maison, ne savent pas faire leurs devoirs parce que, bien souvent, les écoles disent « bah non, c'est comme ça ». Et donc, alors, ces enfants doivent faire leurs devoirs à l'école, durant l'heure du midi, pendant certains cours, enfin, ça ne va pas du tout. Et d'autre part, il y a un dossier qui vient de nous parvenir tout récemment, c'est que certaines communes à Bruxelles, eh ben, l'inscription dans les écoles obligatoires ne se font plus que par des formulaires qui sont sur les sites de la commune ou de l'école. Donc il n'y a plus moyen de téléphoner ou d'aller à un service communal pour inscrire son enfant. Ça doit passer par du numérique. Donc là, on va demander un rendez-vous tout bientôt avec le cabinet Désir, la ministre qui a la tutelle sur l'enseignement obligatoire, pour changer la donne, parce que ça ne va pas.
J'ai l'énervant de pomme, c'est que par Internet. Hein. Les inscriptions, c'est que par Internet.
On n'a plus la compétence.
Ouais, je sais.
Oui.
J'ai
juste une question, parce qu'en fait, c'est pas facile, mais c'est plus fondable si on voit sur, que c'est que par email dans une administration publique et qu'il n'y a pas de téléphone. On se dit que c'est pas normal, on peut... Mais en fait, dans la majorité des cas, il y a un téléphone. C'est juste qu'il n'y a personne qui répond.
Oui,
c'est... Donc, qu'est-ce qu'on fait? On fait des testing. Parce que, c'est, je ne sais pas, 90% de l'administration communale de Nordex sont injoignables par téléphone.
Non, mais on est d'accord. Donc, bien souvent, elles nous disent, oui, on va maintenir un téléphone. Mais encore faut-il qu'il y ait quelqu'un derrière ce téléphone. Et qu'il n'y ait pas une file pendant des heures. Parce que parfois, c'est ça. On vous dit, vous êtes le 99e sur la liste et ça avance très progressivement. Et puis, à un moment, ça s'arrête parfois.
Ouais. Dans ce cas-là, sur le signalement, c'est
compliqué. Non, en fait, non, parce que là, de nouveau, vous devez être sur handicap. Mais là, si vous nous faites un signalement en disant, ouais, grosse blague, ils disent qu'il y a un téléphone, mais en fait, personne ne répond, donc fracture numérique, parce que accessibilité uniquement par le numérique. On va aller voir, nous.
Nous, on parle de bénéfices de cette association, quoi.
Oui, ça, on va en discuter après. Ça, c'est vraiment, oui, tout à fait. Et ici, c'est vraiment un dossier qu'on a eu. On est intervenu auprès de l'école qui a mis en place ce qu'on pourrait appeler un aménagement, mais qui en fait était un droit, c'est que ça a été négocié, mais l'enfant pouvait rester à la garderie de façon gratuite et y faire ses devoirs. C'était quand même compliqué pour la maman qui disait j'aimerais bien récupérer mon enfant à la sortie de l'école, mais c'est à ce stade-là qu'on en était. Et c'est vraiment quelque chose qu'on va devoir gérer de façon structurelle. Ouais, les écoles doivent fournir le matériel informatique si elles demandent que les enfants fassent leurs devoirs au niveau informatique.
Ben, au niveau ordinateur,
il y a un accompagnement, etc. Il y a plein de choses qui doivent être mises en place. Mais au niveau individuel, on peut aller chipoter sur des petits trucs, négocier pour que cet enfant-là s'en sorte, ou en tout cas dans cette école-là, les enfants, on trouve une solution. Mais après, c'est vraiment un travail structurel. Et donc, quand vous nous posez cette question-là, on en est dans le début, quoi. On est en train de mettre en place, de discuter avec les plateformes, donc la plateforme des banques, la plateforme des hôpitaux, etc. On en est à ce stade-là. Ça va être des choses qui se construisent et co-construisent, peut-être.
Est-ce qu'on se pose aussi la question de l'autre côté, je parle en tant que travailleur social,
ouais.
De comment est-ce que les travailleurs sociaux, moi je parle, que beaucoup de travailleurs sociaux, pour l'instant, sont épuisés sur le terrain. Alors effectivement, je disais, c'est le débat que parfois j'avais entre les rendez-vous pas. Pour un rendez-vous, normalement, permet de mieux gérer une salle d'attente qui est pleine. Et donc éviter le stress. Et donc c'est, et de prendre mieux le temps avec les gens même illettrés, de prendre le temps de mieux les accueillir. Donc c'est cette réflexion-là, parfois sur le terrain, qu'il y a, quand on voit la fatigue des travailleurs sociaux, pour l'instant, on l'expose partout. Les agressions qui ont lieu par gens de première ligne explosent aussi. Donc c'est aussi, c'est les deux côtés de la facette. Voilà, donc la question de comment est-ce que, peut-être pour les travailleurs sociaux, on peut mieux vivre nos entretiens sociaux de qualité. Mais par rapport à la côté. Donc c'est la réflexion.
Mais ça, encore une fois, il y a
des travailleurs sociaux. De manière générale, avoir une réflexion avec la fédération des travailleurs sociaux, avoir comment ça peut mieux tout se vivre sur les deux parties pour que les deux s'entretiennent mieux, je dirais, dans ces
occupations. De ce que j'entends, vous êtes dans le public.
Oui.
Voilà, ben, nous, pour les associations de terrain, c'est compliqué, c'est que nous, on reprend tout ce que le travail service public
nous fait. Pas. Mais je dis,
non, mais donc l'épuisement,
c'est partie d'autre. De manière générale, la réflexion là.
Mais cette réflexion, elle doit se faire au niveau politique. Donc, on va dans une numérisation croissante au niveau politique. Il faut avoir la réflexion de qu'est-ce qu'on met en place et protéger ses travailleurs, hein. Bien-être au travail.
Ouais. On voit par exemple que les acteurs du social de première ligne sont épuisés aussi parce que beaucoup de gens sont venus vers eux en disant on n'arrive plus à avoir accès à nos droits de base parce que le système numérique nous laisse sur le bas-côté en fait. Et donc les assistants sociaux ont dû pendant tout le Covid et même après devoir régler les problèmes informatiques des gens pour qu'ils aient accès de nouveau à leur... Et donc là, ça ne va pas, parce que ce n'est pas leur rôle, ce n'est pas leur mission. Donc c'est les services publics qui doivent travailler sur cette réflexion-là de mise à disposition d'outils qui fonctionnent et qui soient faciles d'accès. Et donc là, il n'y a aucune réflexion, très très peu.
Et les associations qui, à un moment donné, jouent la petite main de tous ces pouvoirs publics.
Mais oui, bien sûr.
Ou moi, en tant que formatrice aussi, où je dois justement faire peut-être quelque chose qui... Au départ, c'était la science sociale qui devait faire, ou la banque, ou etc. Donc là, oui, je pense que tout ce qui ne se fait plus ailleurs se fait dans des associations, mais pour seulement les personnes qui sont en formation. Donc, il faut imaginer que toutes les autres personnes qui n'ont pas accès, donc c'est pas compliqué.
Tout à fait, ça, c'est vraiment un gros point qui est connu, c'est que c'est vraiment les acteurs de terrain qui comblent ce manque de cette fracture numérique. Vous allez remplir les documents et les dossiers avec les personnes parce qu'elles n'arrivent pas à le faire elles-mêmes.
Les téléphones, les rendez-vous par mail, le changement de biposte, là,
ça
m'a pris une semaine, je pense.
C'est ingérable, c'est ingérable, en fait. Vous n'avez pas les moyens humains, vous n'êtes pas payé pour ça, c'est pas votre core business, ça ne va pas.
Et on ne comprend pas notre mission de pouvoir les former aussi, parce qu'on perd du temps dans des choses comme ça.
Beaucoup de formateurs disent, en fait, nous, on n'a plus le temps de faire notre boulot. Parce que d'abord, il faut que les gens se trouvent dans une situation où ils peuvent manger, se loger. Donc, on doit régler d'abord leurs problèmes. Voilà, pour après développer de la formation. Mais donc, on marche sur la tête.
Je propose qu'on prenne encore une question et puis après, on fait la pause, ça va ?
Ce n'est pas une question, c'est plutôt une réflexion.
Oui.
Parce que, par exemple, moi... Ce qui m'inquiète le plus dans tout cela, c'est que, en fait, on rend dépendants les personnes. Donc, il y a une discrimination pour moi très ancrée comme ça, à longue durée. Parce qu'une fois que tu rentres dans cette numérisation, que tu aides les personnes, que je comprends, les aider au jour le jour, les rendez-vous et tout ça, il y a beaucoup, beaucoup de démarches administratives qu'en fait, une fois que tu l'as fait de manière numérisée, tu es dépendante de ça. Il faut à nouveau demander le contraire. Et donc, on rend les gens dépendants. Et donc, il y a quand même une discrimination, à mon sens, très conséquente à long terme. Et non pas ponctuelle.
Il n'y a pas d'autonomie.
Oui, c'est ça.
Et si je peux ajouter une chose, la même question, est-ce qu'il n'y a pas une obligation d'accessibilité au service qui retombe sur le service provider? C'est-à-dire que si c'est un service à destination de tous, quels sont les critères pour qu'ils soient accessibles à tous? Et donc les banques, quand elles ont supprimé tous les guichets, quelle était la loi qui leur interdisait de le faire? Si maintenant tous les magasins disent « moi je ne fais plus de cash », quelle est la loi qui les oblige à faire du cash? Donc quel est le minimum d'accessibilité que le service doit avoir? Donc pas sur le versant discrimination, mais sur le versant pour aller dans son esprit de ne pas faire que des aménagements qui rendent encore plus dépendants, mais de voir quelle est l'obligation dans le service aussi, quoi. Donc, si on fait un outil, c'est pas seulement que l'outil numérique doit bien fonctionner, c'est qu'il ne suffit pas à l'accessibilité du service.
On va en parler un peu de l'accessibilité en tant que telle. Il y a effectivement des normes et après de nos recommandations par rapport à ça. On peut faire la pause maintenant et puis... On en a déjà discuté tout à l'heure. Il y a plein de personnes qui ne le connaissent pas. Deux, on se situe dans des bureaux au quatrième étage, l'accès n'est pas toujours facile. Et ça, c'est vraiment un des gros constats qu'on a eu en travaillant sur la fracture numérique et le public analphabète ou illettré. Je vous ai dit, on a, jusque maintenant, on en a un, je vous en parlerai après, zéro signalement d'une personne qui dit, qui nous explique que c'est en raison de sa situation d'analphabétisme qu'elle est discriminée, et on se rend compte qu'on a très peu de signalements de certains publics vulnérables. Et donc pour nous, c'est primordial de pouvoir atteindre ce public, de pouvoir protéger, porter de façon soit individuelle, soit structurelle les situations problématiques. Et c'est vraiment ce qu'on a proposé, enfin, est-ce que Lire et Écrire nous proposait, ce qu'on leur a proposé, c'est qu'on travaille ensemble, qu'il y ait une collaboration qui soit mise en place, sensibilisation de part et d'autre, et puis renvoi de signaux de part et d'autre pour pouvoir avancer sur des matières, ce qu'on a fait. Une des recommandations dans notre avis est d'ailleurs de tenir compte de cette vulnérabilité. Et c'est ce que je vous disais tout à l'heure, je m'étais un peu avancée par rapport à la vulnérabilité, c'est de dire, nous ce qu'on veut c'est imposer dans les législations, imposer à l'État d'avoir une action positive en matière de vulnérabilité, de devoir positivement faire quelque chose par rapport au public vulnérable. Pas simplement de dire, on sait qu'il est là, on sait que nous ce qu'on fait ne touche pas ce public, par exemple, Bruxelles, ordonnance guichet numérique, c'est de devoir positivement mettre des obligations en place pour l'État afin que ce public ne soit pas laissé de côté. Et donc, c'est vraiment de dire, ok, ben dans l'ordonnance Bruxelles guichet numérique, il y a la numérisation qui est en œuvre, ils disent que c'est une obligation européenne, il y a effectivement des demandes au niveau européen, oui, mais vous devez mettre en place de façon positive des démarches, des services, des accueils, des guichets, etc., qui doivent être là pour protéger les personnes qui ne sont pas portées par cette numérisation de la société.
Alors, à côté des législations anti-discrimination et de la discrimination en tant que telle, il y a évidemment des textes qui existent, et quelqu'un tout à l'heure a souligné, est-ce qu'il y a des obligations légales de minimum de services qui doivent être rendus ? On voit qu'au niveau européen, il y a des obligations, il y a un cadre qui est mis sur une obligation d'accessibilité, des garanties qui doivent être là au niveau de l'accès des services d'intérêt général. Donc ça existe. Donc on pourrait imaginer que s'il y a, au niveau de la coupole européenne, des textes très clairs qui disent, voilà, ça c'est des obligations qui existent, tant dans le secteur privé que dans le secteur public, ça devrait se décliner au niveau des pays et puis des différentes entités, mais on voit que ce n'est pas vraiment le cas pour l'instant. On voit qu'au niveau de la Convention ONU sur le droit des personnes en situation de handicap, aussi, il y a une obligation de permettre l'accès aux services de base à toutes les personnes en situation de handicap. De nouveau, ça devrait percoler ensuite, après, dans tous les pays, mais en fait, on voit que ce n'est pas le cas. Mais c'est vrai que ce sont des leviers qu'on peut utiliser dans notre travail de plaidoyer, de lobbying, en disant, regardez, au niveau de l'ONU, au niveau de l'Europe, il y a plein de textes qui disent des choses, qui fixent des obligations, et finalement, les États n'en font rien. Alors là, c'est plus par rapport à le service de lutte contre la pauvreté, donc le service fédéral, qui est aussi dans le même bâtiment et au même étage que nous, où on collabore avec tous ces gens au quotidien. Eux, ils voudraient faire du droit à Internet un droit fondamental inscrit clairement dans des textes à portée internationale. Alors, il y a aussi la question, évidemment, c'est bien de numériser, de tout digitaliser, d'avoir des dossiers, d'avoir tous les éléments dans des ordinateurs partout, mais ça pose évidemment aussi la question du droit à la vie privée, parce que là aussi, il y a des obligations légales, et là, on avance un petit peu sans cadre, sans réelle norme, et donc, c'est vrai que dans la Déclaration universelle des droits de l'homme, dans le pacte international, je le lis pour ne pas me tromper, relatif aux droits civils et politiques, il y a aussi des éléments par rapport à cette question des droits à la vie privée. Alors, dans le cadre de l'avis qui nous avait été demandé par lire et écrire, et puis après on en a fait un autre avis plus général, on terminait par un certain nombre de recommandations qu'on utilise beaucoup et qu'on est en train de pousser beaucoup auprès des différents partis politiques en vue des élections à venir, puis qui sont en train d'élaborer leur programme politique, et donc on est en train de faire un travail de lobbying, de plaidoyer, et en partie sur la question de la digitalisation. On demande évidemment d'améliorer le cadre légal sur cette question, procédant à une uniformisation des législations anti-discrimination. Parce que ce qu'on constate aujourd'hui en Belgique, c'est que chaque entité a sa propre législation, mais que chacun avance un peu dans son coin, en fait. Certains prennent des critères protégés en plus, avancent sur telle mesure, et que les entités ne se parlent plus, en fait. Donc nous, ce qu'on demande, c'est que les différentes entités du pays se mettent autour de la table et uniformisent, en fait, toutes les législations anti-discrimination. Parce qu'on voit qu'en Belgique, on fait 2 km, on passe une frontière linguistique, vous êtes protégés de manière différente parce que les législations ne sont pas les mêmes. Alors, il y a évidemment garantir légalement et sans surcoût l'accès à toutes les modalités qui permettent d'intercéder avec les services publics et privés, c'est-à-dire de maintenir des guichets physiques, de maintenir des téléphones, des permanences téléphoniques à des heures en journée, mais aussi qu'il y ait des gens derrière les téléphones qui décrochent, qui soient formés à répondre aux gens, que les courriers postaux soient encore utilisés et qu'on ne se limite pas à un mail ou à des box numériques. Alors, il y a refusé tout numérique aussi sur l'aspect financier, c'est-à-dire qu'on arrête de dire que l'argent liquide ne peut plus être utilisé, ou bien si on ne passe pas par du numérique et des fonctions numériques, ben, en fait, ça vous coûte plus cher, il y a un surcoût qui soit associé à cette démarche hors numérique. Il y a améliorer l'accessibilité du numérique, ben, évidemment, c'est travailler sur le matériel, permettre aux gens d'accéder au matériel qui leur permettront d'accéder aux services numériques. La mise à disposition d'ordinateurs, la mise à disposition de smartphones, mais pas seulement, c'est aussi avoir Internet facilement, gratuitement peut-être aussi, évidemment, et aussi permettre aux gens d'acquérir les compétences pour utiliser ces outils, parce que c'est pas tout de donner des outils, il faut savoir les utiliser. Alors, il y a aussi la question de favoriser le soutien et le dialogue sur les difficultés. Il est nécessaire que les fonctionnaires, mais aussi les opérateurs privés, soient sensibilisés à toute la problématique de la fracture numérique et qu'ils puissent être conscients qu'il y a une large partie de la population en Belgique et dans les autres pays qui ont des gros problèmes à utiliser ces applications et ces outils. Il y a la nécessité aussi d'uniformiser les pratiques. On voit que, en fait, vous allez sur le site du SPF, le site du SPW, le site de la région bruxelloise. Chaque fois, c'est des interfaces différentes, des pratiques différentes, des signatures numériques ou digitales différentes. À gauche, il faut avoir un code, à droite, il faut avoir ci, il faut mettre sa carte d'identité. Il faut uniformiser, il faut avoir un cadre commun, des interfaces communes pour que ce soit facile et qu'on sache où on met les pieds. Il faut aussi que les gens qui rencontrent des difficultés, des nœuds, quand ils font une procédure numérique, puissent signaler directement, voilà, là, à tel endroit, sur telle page, ça ne marche pas, ou telle procédure ne fonctionne pas, il y a un problème. Il faut que ce soit très fluide, très facile, et il faudrait mettre en place un opérateur indépendant qui puisse recueillir ces signalements, un peu comme un IA du numérique, quelque part, qui puisse recueillir les signalements, qui puisse aussi rappeler à l'ordre les gens qui utilisent le numérique en disant « il y a des normes, il y a un cadre, il faut s'y conformer, vous êtes en dehors du cadre, revenez dans ce cadre et ces normes », et puis qu'ils puissent faire évoluer les pratiques dans le bon sens, en fait. Alors, il y a la question, évidemment, des groupes les plus vulnérables. Il faut impliquer les groupes les plus vulnérables, il faut les associer à la réflexion sur les outils, il faut partir de leurs besoins et de leurs difficultés, parce que si on crée des dispositifs qui sont accessibles aux personnes qui ont le plus de difficultés, on parviendra à des dispositifs qui sont accessibles pour tout le monde, en fait. Donc, il faut pleinement associer, et peut-être que quand on conçoit des outils numériques, il faut d'abord voir quel pourrait être l'impact pour ces publics et les associer en amont plutôt que faire des évaluations en aval. Je pense que c'est l'évaluation ex ante, c'est comme ça. Anaïs, c'est bien ça. Donc c'est vraiment des évaluations avant, plutôt que de faire des évaluations après en disant « Ah, il y a tel et tel problème, on n'a pas pensé à ça. » Travailler avant plutôt qu'en aval. Voilà. L'ensemble des recommandations sont disponibles dans notre avis qui est sur notre site accessible en ligne. Il y a une question ? Oui.
Oui, enfin, ce n'est pas une question, mais je suis un peu étonné que vous n'ayez pas repris dans la liste des recommandations l'automatisation des droits. Il est complètement normal que des gens qui ont des droits ne puissent pas les faire valoir, soit parce qu'ils ne sont pas au courant ou parce qu'ils ont un tas de difficultés. Et là, je trouve qu'il y a, vraiment un vide sur le plan, à tous les niveaux de pouvoir. On devrait donner aux gens le droit auquel ils ont, point. Vous avez un enfant, vous avez droit à des allocations familiales, point, c'est tout. Il n'y a pas d'enfant qui ne donne pas droit à des allocations familiales. Alors, qu'est-ce que c'est que ces dossiers, on va pas finir, pour des gens qui ont absolument besoin de leur argent tout de suite.
Donc là, je suis tout à fait d'accord, ça devrait être la première recommandation qu'on met tout au-dessus. D'ailleurs, on va la rajouter parce que c'est quelque chose pour lequel on plaide partout où on peut plaider, mais évidemment, c'est la première chose et ça supprimerait bien des barrières, évidemment, dans l'accès aux droits pour les gens. Oui.
En même temps, je pense qu'avec l'automatisation, je suis d'accord, et en même temps, je pense qu'il faut faire, gaffe parce qu'on peut justement entrer en discrimination assez facilement. Sinon, je m'explique plus tard, peut-être, ce n'est pas les sujets maintenant. Mais je pense que l'automatisation doit être
bien pensée. Par exemple, on voit qu'il y a beaucoup de personnes qui se trouvent qui n'ont pas un statut très clair dans l'administration, qui sont entre deux statuts. Il y a des personnes où l'administration a des données erronées et qui changent ces statuts. Et on voit que l'administration ne réagit pas rapidement. Et on voit aussi dans d'autres pays qu'il y a eu pas mal de problèmes avec les algorithmes d'automatisation des droits qui ont donné lieu à beaucoup de problèmes de discrimination. Donc je pense que c'est une bonne solution, mais qui n'est pas non plus une panacée.
C'est la question qu'on s'est posée avec le tarif social quand il y a eu la crise de l'énergie. Le fait que les personnes doivent demander le statut BIM pour avoir accès au tarif social, puis pendant la crise ça a été un peu modifié, mais il reste qu'effectivement, il faut faire méga gaffe à l'intelligence artificielle et que les algorithmes, c'est dangereux. Et donc, ça peut être une solution, une piste, mais qu'à côté de ça, il faut absolument garantir l'humain, les cas différents, les cas exceptionnels, pour être certain que tout le monde soit protégé. Il y a ce danger-là avec l'automatisation. Et comme on est sans arrêt dans la réduction des coûts et réduction du travail humain, l'automatisation, elle intéresse aussi les pouvoirs politiques. Donc, il faut faire attention quand on plaide pour ça.
Et ce serait bien aussi que l'humain ait raison par rapport à la machine. Moi, j'ai déjà eu une situation où l'algorithme avait buggé. Pendant plusieurs années, je déménageais virtuellement sans rien faire, comme ça. Du coup, ma mutuelle sautait automatiquement. Et j'avais beau dire, j'habite là, voilà ma carte d'identité, il me dit, ah, mais le programme informatique a dit que. Moi, j'ai pas bougé. Et donc, la personne me disait, moi, je comprends bien, mais le programme.
Vous disait que c'était le programme.
Oui.
Mais la facture numérique.
Non, donc la personne manuellement rechangeait les données, mais une fois par an, il y a une actualisation algorithmique qui se fait en lien avec la commune, je ne sais plus très bien. Et à chaque fois, ça ressautait. J'ai eu un stock de vignettes, vous n'imaginez même pas, quoi. Parce qu'à chaque fois, je redéménageais chez moi, donc je recevais des vignettes. C'était extraordinaire.
Donc, voilà le danger. Il y a un avantage, mais il y a un piège à ça.
Ici, aux Pays-Bas, ils avaient justement automatisé par rapport aux allocations familiales. Ouais. Et ça a mis, je pense, 50 000 ou peut-être un peu plus de familles à défaut qui sont retrouvées à la rue.
Catastrophe humaine énorme.
Et France aussi, ils viennent de mettre à jour, il y a quelques mois, un gros, gros problème à ce niveau-là.
Tout le monde connaît, tout le monde a entendu parler de cette situation parce qu'on en parle constamment. Aux Pays-Bas, il y avait l'automatisation des allocations familiales, je pense. Et c'était donc une intelligence artificielle, il n'y avait plus d'humains, ça se faisait par calcul, par plic-ploc. Et en fait, ce truc a complètement déconné. Il y a des gens qui n'ont pas reçu, il y a des gens qui ont dû rembourser des milliers d'euros. Et il n'y avait pas de système de recours, de possibilité humaine d'interaction. Et donc, il y a eu des gens, je pense qu'il y a eu des suicides, ils en ont parlé. Il y a eu des personnes à la rue, il y a eu vraiment une catastrophe humaine parce qu'un algorithme a déconné, parce qu'il était mal fait. Et donc, voilà, l'automatisation des droits, oui, mais...
Comme je le disais à la pause, il y a... Oui, mais c'est par rapport à cet espace numérique qu'il faut gérer, donc... Je vais peut-être le dire pour tout le monde, parce que je pense que c'est vraiment intéressant. Il y a un podcast, je ne sais pas si vous connaissez le podcast Déclic le tournant de la RTBF. Il y en a eu un sur la numérisation, il y a très peu de temps, au moment où ils ont passé la législation Bruxelles numérique. Il est vraiment hyper intéressant et très finement analysé. Et ils expliquent que l'espace numérique est en fait un nouvel espace à gérer qui s'ajoute à l'espace administratif physique réel et que c'est une erreur de croire qu'on peut diminuer le personnel humain parce qu'il y a cet espace numérique. En fait, c'est le contraire. Il faut des gens pour gérer cet espace numérique. Moi, quand j'ai eu mon problème de mutuelle qui sautait machin, et ben, il fallait un informaticien qui puisse aller dans l'algorithme et dire « Non, mais là, il y a une donnée qui est mal encodée, il faut la changer ». Et donc, oui, il faut plus de monde, en fait. Et ça, c'est un message à faire passer aux politiques aussi. C'est pas un outil de réduction des coûts, ça, c'est un leurre. Il faut vraiment faire passer ce message.
Mais c'est quand même utilisé comme tel. Donc, c'est utilisé comme un outil de réduction des coûts à l'heure actuelle, qui fait qu'on arrive à la situation où plus personne n'a accès. OK. Ça va pour la fracture numérique ?
Question aussi, désolée. Le fait que maintenant, toutes les institutions souhaitent que les gens soient payés sur compte bancaire, et plus par assignation, on a remarqué une évolution chez nous. Les gens parfois souhaitaient être payés par le facteur, l'assignation postale. Et maintenant, on a dit non, maintenant la règle, c'est davantage le compte bancaire. Vous en pensez quoi? Parce que c'est pas vraiment numérique, mais c'est numérique parce qu'il faut le compte bancaire, il faut avoir une banque. Et donc, il faut les gens, effectivement, là, ils n'ont plus accès à leur liquide, à eux. C'est même pas pour le donner à un service, c'est pour l'avoir eux-mêmes. Pour gérer, donc, et c'est voilà, plus... des réflexions qu'il y a eu aussi pour les gens. Ils disent, on fait quoi? Moi, je vois mon facteur, on leur dit, mais non, la règle maintenant, c'est le compte bancaire.
Ouais, et maintenant, même la banque de la poste n'existe plus.
Oui, donc,
c'est ça, on va avoir
Et il y a une difficulté aussi, le compte bancaire de base, hein, d'accessibilité au compte bancaire pour un certain type de vie. Oui, on a eu un signalement, on a trouvé une solution individuelle, mais au niveau structurel, on n'a pas travaillé sur cette problématique. Parce qu'on n'a pas suffisamment de situations qui nous permettent à un moment d'aller dire « c'est hyper problématique ce que vous mettez en place ». Donc, la situation individuelle qu'on avait a été résolue.
Suzanne, c'est pour protéger les facteurs, peut-être, à juste titre, des agressions des facteurs, qu'on fait le compte bancaire et plus le paiement par assignation.
Il protège aussi la vie privée, le fait que d'autres personnes puissent alors voler plus facilement la sécurité. Il y a plein d'arguments autour de cette mise en place de compte bancaire. Mais si jamais vous voyez que c'est vraiment une réalité de terrain, ça n'hésitez pas à en discuter avec nous pour qu'on puisse travailler là-dessus et analyser la situation plus en profondeur. Quand c'est une situation individuelle, si on trouve une solution et qu'on ne voit pas la problématique structurelle, alors on ne va pas plus loin.
J'ai une question de curiosité. Oui. Le secrétaire d'État à la digitalisation, je l'ai rencontré une fois, et je ne sais pas si j'ai bien compris son discours, mais en fait, dans ce qu'il propose, lui, pour moi, il va créer une société à deux niveaux, parce qu'il me semble, si j'ai bien compris, qu'il est à fond hein, pour digitaliser de plus en plus, et peu importe qu'il y ait une société qui va être exclue, donc les autres vont se débrouiller autrement, mais en tout cas, nous, on continue. Donc je suppose que vous avez quand même des contacts avec lui et que ça ne doit pas être évident à travailler avec une personne comme celui-là.
Alors, comment ça s'est passé? Une fois qu'on a sorti l'avis des réécrits, on a été saisi par le secrétaire d'État Claire Failly dans le cadre de l'ordonnance numérique pour rendre un avis sur l'ordonnance numérique. Notre avis n'était pas très éloigné de l'avis que nous avions remis, évidemment, à lire et écrire, même si on est revenu sur des aspects plus techniques du texte. Et on a été assez critique en disant qu'il fallait garantir toutes les voies d'accessibilité, les physiques, etc., etc. Et puis on a été invité au cabinet pour aller discuter de notre avis. Et donc on a rencontré, pas le ministre, parce qu'il est toujours très occupé, comme les ministres, mais donc on a rencontré le conseiller qui a rédigé ce texte et qui est une personne qui est convaincue d'avoir fait un texte historique. Pour lui, c'est le premier texte de cette envergure au niveau mondial. C'est vraiment et il est vraiment voilà, il est vraiment dedans.
C'est pour ça qu'on a fait un tour de table avant pour savoir qui était.
Mais voilà, on a eu un échange très cordial, diplomatique, où on a pu dire que nous, on trouvait que ce texte n'allait pas, posait beaucoup de questions et était risqué, et justement, allait créer vraiment une société à deux voix. Il a essayé de nous convaincre que pas du tout, qu'il y avait vraiment toutes les garanties.
Il est jeune, lui, non? Je
l'ai rencontré. Il est jeune, je ne sais pas.
Il est encore motivé.
Il est très motivé. En tout cas, sur cet aspect, ce dossier-là, il est très, très motivé.
Je me demande si Virginie ne parle pas de Mathieu Michel. Moi, je parlais de Mathieu Michel.
Ah, moi, je ne parle pas de Mathieu Michel. Je parle vraiment de Bruxelles, moi.
Ah, moi, je parlais de Mathieu Michel.
Je ne connais pas le conseiller de chez Mathieu Michel, puisque c'était un texte bruxellois qui est passé. Mais donc, le texte, l'ordonnance qui est passé au Parlement. Il y a eu un refus d'audition de toutes les personnes qui avaient envie de participer à la commission. Il y a un représentant de Lire-Écrire qui a pu un peu synthétiser les positionnements des acteurs. Mais bon, il y a eu un vote mi-figue, mi-raisin, parce qu'on ne peut pas dire qu'il y a eu vraiment plein de gens qui étaient là. Oui, nous voulons une ordonnance numérique. Il y a eu beaucoup d'abstentions, il y a eu beaucoup de gens qui ont voté contre. Et les gens qui ont voté pour, il y a une partie qui l'ont fait parce que, voilà, il y a un jeu politique qui fait qu'en fin de législature, il y a des choses qui doivent passer, sinon vos dossiers ne passent pas. Donc, enfin, voilà, ça s'est géré un peu comme ça. Maintenant, il y a des arrêtés qui vont être pris, des arrêtés d'application. Certains pensent que, à travers les arrêtés, il va y avoir moyen de bétonner plus la garantie d'accessibilité physique, les permanences téléphoniques, les guichets, etc. À la fois, dans le texte, Il y a des problèmes, en fait, qui laissent des solutions aux communes, par exemple, de ne pas vraiment respecter le maintien de guichets. Donc, il y a un problème dans ce texte. Et donc, peut-être qu'au niveau des arrêtés, il y aura moyen encore de changer les choses. Et je pense que tout le monde est un peu sur la balle pour essayer de voir si on peut encore peser sur les arrêtés. Mais voilà, ce texte est pas terrible, c'est en clair. Enfin, pose problème en tout cas. Voilà.
D'où la possibilité éventuelle d'aller devant la Cour constitutionnelle si les arrêtés ne sont pas ne permettent pas de baliser les manques de l'ordonnance. Donc ça, c'est une des conséquences qu'on tire de cet avis sur la fracture numérique, c'est oui, il y a moyen d'aller en justice. Il y a moyen d'aller en justice soit sur un dossier individuel, une situation qui serait vraiment étayée, et alors on va devant les tribunaux civils, et puis on met en cause la responsabilité de l'État, soit le contentieux objectif, donc la Cour constitutionnelle ou le Conseil d'État, pour attaquer un acte, donc pour dire l'ordonnance guichet Bruxelles numérique, on n'en veut pas, on veut qu'elle soit annulée. Donc là, on demande d'attaquer soit l'ordonnance, soit les arrêtés. On verra quand les arrêtés seront sortis. Une autre piste qui existe...
Ça ne serait pas trop tard.
C'est 6 mois. En fait, c'est 6 mois pour le recours devant la Cour constitutionnelle par rapport à l'ordonnance. Et vu, ça c'est notre input politique, qu'ils vont devoir prendre les arrêtés très rapidement.
Oui, parce qu'il y a les élections bientôt, donc ça va être pris dans les 2-3 mois qui arrivent.
Donc il y aura moyen éventuellement... Mais voilà, rien n'a été décidé, c'est une option qui existe, il faudra voir...
Du coup, pour aller à la Cour constitutionnelle, est-ce que c'est un organisme qui peut faire cela ou c'est un individu qui doit...
Quiconque a un intérêt, milieu associatif, institution publique, UNIA est déjà allé devant la Cour constitutionnelle.
C'est ce que j'allais demander. Ça s'est déjà présenté.
Ça s'est déjà présenté, c'est vraiment rare. On va plutôt dans les dossiers individuels, mais on est déjà allé devant la Cour constitutionnelle pour essayer de faire modifier une législation.
Et donc la UNIA est comme support, soutien, ou quel est son rôle du coup lorsqu'on va dans la Cour constitutionnelle?
Partie. UNIA peut être partie avec le secteur, avec certaines associations. UNIA peut être partie.
Mais est-ce qu'il y a une partie complexe, je veux dire par là, toutes les associations qui sont impliquées, elles pourraient intervenir et faire une seule procédure en mettant tout le point. Ou est-ce que ça doit être une association? Parce que
non, ce serait une seule procédure et vous avez toutes les associations. Ça arrive souvent, la Ligue des droits humains se met à l'écran. Et donc, ensemble, plusieurs associations et éventuellement certaines institutions attaquent un texte. Ouais. Et une autre option qui nous intéresse vraiment fort, mais ça, c'est pas par rapport à l'ordonnance Bruxelles, le guichet Bruxelles numérique, mais c'est par rapport à la situation de la fracture numérique. Il existe le Comité européen des droits sociaux. Et ce comité peut rendre des décisions relatives à des réclamations collectives. On peut, en passant par la Ligue des droits humains et donc par la Fédération internationale des droits humains, on peut saisir ce comité qui peut analyser une réclamation collective concernant un manquement de l'État. Donc on pourrait dire, l'État belge ne met pas en place ce qu'il faut par rapport à la fracture numérique. Voilà les groupes qui sont touchés, voilà le problème de vulnérabilité. On veut une décision qui condamne l'État belge. On l'a déjà fait, par exemple, en matière de gens du voyage, pour dire que l'État belge ne mettait pas assez de terrain à disposition des gens du voyage, et on a gagné. Et cette décision existe, le problème c'est qu'elle n'est pas appliquée, donc maintenant on pourrait utiliser cette décision devant les tribunaux pour faire condamner la Belgique en responsabilité. Mais donc c'est des décisions super symboliques quand même, l'État n'aime pas se faire condamner devant le Comité des droits sociaux, et ça c'est vraiment une piste qui nous intéresse beaucoup par rapport à la fracture numérique. Alors, pour aller plus loin, donc vous avez entendu, difficulté pour nous d'avoir les signalements, les situations individuelles ou structurelles du terrain, puisque nous, on fonctionne avec les signalements ou avec les contacts politiques. Et donc, on est vraiment dans un processus de mise en place de collaboration avec les acteurs de terrain qui ont accès à ce public vulnérable. Par exemple, avec Lire et Écrire, on a mis en place une collaboration. Et Lire et Écrire nous envoie, au niveau structurel, des situations que nous pouvons traiter, soit par des avis, soit par des réflexions. Je vous dirai ce qu'on est en train de faire. Et donc, dans l'aspect collaboration qu'on peut mettre en place avec les associations, c'est la façon dont les signalements nous sont envoyés, la sensibilisation qui peut être faite par vous vers nous, parce qu'en fait, il y a plein de publics qu'on ne connaît pas ou auxquels on n'a pas accès. Donc, c'est hyper important qu'on puisse avoir ça. Et aussi, que nous, on puisse vous donner l'info qu'on a, par exemple, par rapport à la fracture numérique, par rapport à certains, à la discrimination. On peut rendre des avis, on peut essayer de faire des études. Donc, il y a vraiment, on peut mettre de l'input, on peut rendre un avis. Si vous venez avec une problématique structurelle, on peut se positionner, prendre un avis au niveau de la discrimination. Et cet avis, après, vous pouvez l'utiliser au niveau politique. C'est ce que fait Lire et Écrire avec l'avis sur la fracture numérique. éventuellement faire des procédures. Hein. Je vous ai parlé d'éventuelles procédures devant la Cour constitutionnelle, le Comité des droits sociaux. Ce n'est pas des choses qu'on fait sans le terrain. C'est certain qu'on a besoin de vous, on a besoin de vos signalements, de votre tour, de votre nom, pour faire ces procédures. Et puis, on pense vraiment que c'est important qu'on ait ensemble des concertations régulières pour pouvoir discuter de ça, pour que vous puissiez nous dire ce à quoi vous êtes confrontés, parce qu'on peut vraiment passer à côté de plein de choses si on prend des recommandations sans avoir votre avis. Par rapport au signalement, vous me posiez la question tout à l'heure, vous pouvez tout à fait faire des signalements à UNIA. Donc ça ne doit pas nécessairement être la victime qui nous fait un signalement. Ça peut être une association qui voit une situation structurelle problématique et qui nous dit « gros problème là, qu'est-ce que vous en pensez ?» Ça peut être un travailleur qui est avec une victime de discrimination et qui dit « mais en fait, c'est dramatique ce que tu vis, bam, je fais un signalement, je t'aide à faire le signalement. » Tout ça, c'est tout à fait accepté. On peut avoir des demandes de certaines associations, de dire bah, « écoutez, nous on se pose vraiment des questions, on a l'impression qu'il y a plein de discriminations, qu'est-ce que vous pouvez nous en dire ?» Eh bien, on propose des dates, on se rencontre, on sensibilise à la discrimination, ils nous expliquent ce qui se passe. Donc, il y a vraiment une possibilité qu'on s'échange les informations qui sont importantes. Si vous nous envoyez des signalements structurels, on va pouvoir bosser dessus et rendre des avis. Et donc, ces signalements, j'ai mis « OK, anonymat », vous pouvez tout à fait le faire de façon anonyme. Donc, vis-à-vis de nous, vous n'êtes pas anonyme, mais vous pouvez dire « Voilà, il y a cette situation qui est rencontrée, mais on n'a pas envie que notre association soit connue de la partie adverse ou de la structure politique, parce qu'on est tout le temps en contact avec eux. Des centres d'hébergement pour personnes sans abri disent « Voilà, il y a cette problématique avec une AIS ». Mais en fait, on n'a pas envie que cette AIS sache que c'est nous qui avons déposé le signalement parce qu'on a besoin de cette AIS pour placer nos personnes. Et donc, voilà, nous, on peut être au courant d'une situation, prendre contact avec l'AIS sans jamais dire qui nous a déposé cette situation, ce signalement structurel. Maintenant, si c'est une victime individuelle et qu'on doit parler d'un cas individuel, là, on doit donner son nom pour expliquer la situation. Mais il y a vraiment moyen de s'arranger. Vous allez avoir nos adresses mail et il y a aussi le numéro par rapport à la permanence si vous voulez faire des signalements, donc c'est quand même relativement simple. Et on prend aussi ce que je vous disais, les signalements structurels. Et je vous ai mis l'exemple de la nationalité. Bon, je vais vous dire. Le premier, licenciement abusif, ça c'est un signalement individuel qu'on a reçu récemment, dont on a parlé et on est super énervé par rapport à ça. C'est une femme qui s'est fait licencier, qui était technicienne de surface, et elle s'est fait licencier parce qu'elle était analphabète et qu'elle ne savait pas lire les pancartes indiquant où étaient les toilettes. Enfin, j'en sais rien, absolument pas nécessaire. C'est la première fois qu'on a un signalement où la personne dit « c'est en raison de mon analphabétisme que je suis licenciée ». Donc pour nous, ça aurait été un truc où on allait mastodonte à 5 rencontrer. Mais en fait, il y a une prescription d'un an par rapport au licenciement abusif et la personne vient nous voir plus d'un an après le licenciement. Et donc légalement, gros mastodonte, UNIA ne va pas pouvoir intervenir. Ce qu'on va pouvoir faire, c'est faire un petit courrier sans trop dire que c'est prescrit en disant « mais enfin, qu'est-ce que vous avez fait ?» Mais ça ne va pas pouvoir être... plus fort que ça. Et donc, c'est hyper important qu'on reçoive ce genre de signalement, et pour l'instant, c'est très difficile de les avoir.
Et c'est important parce que vous voulez aller en justice, c'est ça ?
Ça dépend, soit de justice, soit de négociation, mais une situation individuelle comme celle-là, un licenciement abusif plus licenciement discriminatoire, ça se chiffre à des milliers d'euros, hein, l'indemnité que peut recevoir la victime.
Mais vous disiez qu'il n'y a que 1% des plaintes qui aboutissent à une plainte, non ? Et je vais en justice.
Oui, mais avant, vous avez la négociation. En fait, on n'a que 1% de dossiers en justice parce qu'avant on négocie et qu'on a plein de techniques de négociation. On négocie.
Vous êtes content davantage pour la personne.
Donc, quand la personne vient nous voir, on lui dit voilà ce que vous pouvez obtenir, des excuses, une reconnaissance de discrimination, il y a plein de choses. Hein. Et voilà le montant légalement prévu pour un licenciement discriminatoire, pour un refus de logement. Ça dépend vraiment du domaine. Et fort de ça, nous allons négocier. Mais voilà, une négociation, après, c'est parfois on aboutit à un compromis, parfois on obtient tout ce qu'on veut. Et il y a des dossiers qui sont très forts au niveau structurel, très parlants, très groupe vulnérable, où là, on ne va pas lâcher. Et si on n'obtient pas ce qu'on veut, on ira en justice. Et donc, il y a une négociation. On a plein de dossiers où les personnes obtiennent une indemnité et on n'est pas allé en justice.
Donc, en gros, vous expliquez, s'il n'y a que 1%, c'est qu'en amont, il y a déjà un travail d'investissement qui a été fait où les parties ont pu trouver.
Donc, nous, on reçoit un signalement, on décortique. Si on estime qu'il y a discrimination, on prend contact avec l'autre partie. On dit, bah voilà, ici, il y a une situation, on aimerait un peu d'éclaircissement parce qu'il faut toujours avoir les deux avis. C'est tout à fait possible qu'il y ait d'autres arguments, une incompréhension. On rencontre l'autre partie. Et puis, si on pense qu'il y a eu discrimination, on dit, nous, on pense qu'il y a eu discrimination. Voilà ce que la loi nous permet de réclamer. Qu'est-ce que vous en dites? Et on négocie.
Mais je pense que c'est important de le signaler parce que dans la majorité des cas, ben, les personnes sont, dès le départ, démotivées en se disant, de toute façon, ça ne va pas aboutir. Je sais, je vais aller me plaindre, mais il n'y aura pas d'aboutissement.
Et la grande difficulté à ça, on est dans un monde juridique, c'est la preuve. Donc quand quelqu'un vient nous voir et que cette personne nous dit « j'ai été licenciée parce que je suis homosexuelle et qu'elle a zéro preuve », nous, on ne peut pas arriver dans une négociation en disant « c'est parce que la personne est ». Et c'est pour ça qu'on est en train de mettre en place les testings. Il y en a plein en matière d'emploi avec les faux CV, les trucs comme ça, pour essayer d'avoir des présomptions et des preuves pour être plus fort. Mais les dossiers où il y a preuve...
Dans le nombre de signalements que vous recevez, combien estimez-vous qu'ils sont irrecevables? Enfin, que vous ne pouvez pas traiter parce que, justement, le cas que vous expliquez. En pourcentage, c'est juste pour une idée.
On a des chiffres par rapport à ça, mais je ne les ai pas.
Oui, mais bon, un ordre de grandeur, je ne vais pas les vérifier. C'est juste pour avoir une petite idée.
Mais il y en a quand même pas mal, je crois, de dossiers qu'on n'arrive pas à traiter.
Moi, je dirais que 2 sur 3 sont incompétences ou non preuves, pas de preuves.
Mais 1 sur 3 est acceptable.
Je pense. Ouais.
C'est quand même pas
mal. Il devient un dossier, quoi.
Ouais. Oui, c'est intéressant.
1 sur 3.
Non ?
Oui, c'est bien
possible. Mais je dis comme ça, je ne connais pas les chiffres.
Bon. Non, à mon avis, c'est plus ou moins la réalité, oui. Oui ?
Une question précise. Parce qu'effectivement, vous parlez que parfois, vous n'avez pas assez de signalements des personnes illettrées ou analphabètes. Qui sont dans des différentes difficultés dans la vie de tous les jours, je vais dire, parce qu'il n'y a pas que la fracture numérique. Mais en pensant que si, quand quelqu'un vient me voir dans mon bureau, et elle m'expose ce problème, et que j'arrive avec un dialogue avec la personne pour lui dire, écoute, on pourrait signaler ça chez Unia. Est-ce que ça, c'est envisageable? Vous comprenez la question?
Est-ce que vous pouvez signaler avec cette personne ça?
Ouais. Tout à fait. Ok. Ouais.
Elle seule,
donc
ensemble,
si effectivement la personne arrive à bien à comprendre que peut-être ça serait... Voilà, qu'on puisse entamer, moi que j'entame un dialogue avec la personne et qu'elle comprenne ça, elle peut les signaler. Et là, vous accumulerez des preuves de dire, voilà, les gens sont quand même assez discriminés par rapport à certaines choses, c'est ça?
Oui, il faut avoir des éléments. Donc vous pouvez toujours faire des signalements. Ça, faites des signalements, mais c'est possible qu'à un moment, vous dise, dans votre signalement, il n'y a pas de preuves.
Serait suffisant de dire... Quand la personne, par exemple, je vois là les allocations d'études, qu'un père me dit, je ne sais pas faire ça par cette voie, je ne peux pas faire ça, ou effectivement, je n'arrive pas à prendre un rendez-vous en ligne, et soit quelqu'un me le fait, soit je ne sais rien faire.
Donc ça, c'est un signalement qui va nous aider au travail structurel. On ne va pas pouvoir venir demander des indemnités parce que...
Non, mais je comprends.
Vous voyez, là, on est sur du structurel, on est face à un service public, une UNIF, etc. Et donc, ce qu'on va faire, c'est prendre contact avec l'école, le service public, en disant, regardez, il y a une situation là, sans même parler du nom de la personne si elle n'en a pas envie, en disant, cette personne, elle a une difficulté, qu'est-ce que vous faites?
Mais ça pourrait aider à faire évoluer la situation.
Complètement, parce qu'en plus on a de signalements qui parlent de ça, même si on n'intervient pas, plus nous, on peut dire, regardez le nombre de signalements qu'on a. Mais c'est possible qu'on ne réagisse, qu'on ne fasse rien dans ce signalement en particulier, parce qu'il n'y a pas les éléments, parce que...
J'ai bien compris.
Par exemple, on a plein de signalements sur une grande surface en particulier, qui a mis, je pense, le... truc de fidélité uniquement sur app. Eh bien, on ne va pas aller pour une personne face à cette grande surface, on va intervenir auprès de la grande surface en disant qu'est-ce que vous êtes en train de faire, et après, on veut prendre contact avec Comeos, qui est la structure pour leur dire, vous devez mettre en place un protocole ou un truc que les grandes surfaces doivent respecter par rapport à ça. Donc là, on fait du structurel, quoi.
Et dans les profs, c'est pas toujours évident, parce que moi j'ai une dame qui a été licenciée, elle a travaillé quelques années dans une crèche, elle faisait les repas, ça causait pas de problème qu'elle ne sache pas lire, jusqu'au jour où c'était compliqué, son patron est venu lui dire, écoute, il faut toujours demander à ta collègue ce qu'il faut faire comme plat, puis au lendemain on l'a licenciée. Mais une preuve,
Si c'est des mots, c'est des paroles. On l'a justifié oralement, en fait, son licenciement. Mais on a... Ouais.
Ouais, mais on ne sait pas. On ne sait pas qu'on va être licencié, c'est difficile. Oui, ça, donc ça, c'est une problématique à laquelle on est vraiment très souvent... On fait face. On peut parfois quand même intervenir pour demander mais quels sont les motifs du licenciement à l'employeur ? Donc à l'employeur de réagir. Et puis nous, on voit si dans sa réaction, c'est attaquable ou pas au niveau du licenciement abusif. Mais effectivement, on a tellement de dossiers que parfois, quand il n'y a pas de preuve, on dit désolé. Il faut que vous trouviez une preuve avant qu'on puisse imposer.
Il y a un appel téléphonique, je peux le faire, l'enregistrer.
Tout à fait.
J'ai une d'origine étrangère qui souhaitait louer une maison. Et à chaque fois, on me disait non, c'est trop tard, etc. Dès que moi, j'ai joué le jeu avec mon nom, j'ai dit est-ce que tu me permets, moi je téléphone.
Ça, c'est le
testing. Donc je l'ai fait et à ce moment-là, j'ai eu un rendez-vous.
C'est le testing, vraiment ça c'est le testing qu'on a sur notre site.
Donc, c'est
de dire, faites appeler la personne, elle enregistre, on lui dit, bah non c'est déjà loué. Et puis, il y a une autre personne qui appelle, qui n'a pas le critère de la première personne. Et là, on lui dit, oui, oui, venez à la visite à 14h. On a les deux enregistrements, présomption de discrimination. C'est au bailleur de nous démontrer qu'il y a une autre raison aussi.
D'accord. J'ai une question aussi.
Oui.
Par rapport au signalement, bon, moi je travaille avec, dans mon association, on travaille avec des primo-arrivants, mais j'ai vu que vous n'étiez pas compétent pour le critère de langue. Comment est-ce qu'on fait ?
Origine nationale.
Origine nationale, oui.
Ok.
Pour les primo-arrivants, donc les personnes d'origine étrangère.
C'est difficile de dire qu'ils sont, parce que nous, ils arrivent avec leurs papiers, parfois sur papier, et disent qu'ils ne comprennent rien. Et puis, il y a toute la problématique aussi, effectivement, d'avoir accès à un service, de prendre un rendez-vous par Internet. Mais il y a aussi le fait que, indépendamment du critère numérique, ben, ils ne comprennent pas le français. Donc,
Vous êtes sur origine étrangère indirecte. Une règle apparemment neutre, mais qui a un impact sur des personnes d'origine étrangère. Il y a encore au niveau de l'enseignement, Sébastien nous en a parlé. Donc voilà, on reçoit au niveau structurel, problématique à Bruxelles, les inscriptions ne se font que, à l'école ne se font que par voie numérique. Bon, on va intervenir. Auprès des communes, plus au niveau du ministre.
Du cabinet.
Aussi.
Allocation d'études, c'est ça ?
Non, j'ai des dames qui sont vraiment ennuyées, parce que des hommes, parce que justement, tout ce qui est facturation, des repas, des cantines, etc., ne se font plus par courrier, ni par virement. Et donc là, ça se fait principal. Mais là, on travaille avec, j'habite mon coin, avec la bibliothèque de la commune, qui a répondu à un appel à projet de l'association Ravaudouin, sur justement les... comment on appelle ça ?
Abschool,
etc., toutes ces choses-là. Donc, il y a un travail qui est mené. Mais la difficulté, c'est on n'a pas les infos, mais on s'habitue à ne pas avoir les infos quand on ne sait pas lire. Et encore, c'est dérangeant. Nous, on travaille là-dessus pour la lecture. Maintenant, c'est tout ce qui est les frais scolaires. Ils ne passent plus autrement que par l'application. Donc, c'est super compliqué. En plus, comme toi, tu disais, il n'y a pas de lien direct parfois avec l'appli bancaire. Donc, il faut enregistrer les infos, peut-être les renoter avec le numéro de compte, etc. Après, repartir sur son application bancaire.
Et ça, donc, ça nous intéresserait vraiment.
Essentiellement,
le projet. J'aurai
des retours certainement.
N'hésitez pas à nous adresser. On a une collègue enseignement qui bosse sur la fracture.
D'accord. Oui, il y a aussi des liens avec l'apprentissage, hein, parce que ça crée une discrimination face aux apprentissages. Ce numérique à l'école, hein, c'est une catastrophe. Hein.
Ouais.
Moi, je viens du monde de l'école, j'étais prof 20 ans, c'est une horreur. Hein. Mm-hmm.
Va falloir choisir ses combats aussi. Hein.
Non, moi, j'ai choisi, j'ai quitté l'enseignement.
Un des signalements qu'on a reçus, c'est par rapport au code de nationalité. J'ai entendu des personnes qui étaient intéressées sur le sujet. On débarque sur le sujet. Donc c'est pour vous expliquer la façon dont on fonctionne. Donc, lire et écrire nous envoie son mémorandum par rapport au code de nationalité. La problématique, c'est que pour obtenir la nationalité, il faut démontrer... un certain niveau d'intégration et ça sous-entend dans la législation un certain niveau de langue qui est le niveau A2. Les tests ne se font pas que oralement, mais oralement et par écrit. Problème pour les personnes analphabètes.
J'ai eu hier quelqu'un d'Actiris au téléphone sur cette question-là qui disait qu'il n'y avait même plus d'oral. Hein. C'est que du PC. Il n'y a plus de production orale. Oui, c'est peut-être qu'à Bruxelles, mais il n'y a que de la production écrite, compréhension écrite et compréhension orale et tout sur PC.
Ouais, apparemment, ça dépend vraiment de l'organisme qui va faire passer le test. Donc, on reçoit ça, on nous fournit plein d'infos. Il y a eu un arrêt de la Cour constitutionnelle. Je ne sais pas, j'imagine que vous avez pas mal suivi ça. Et la Cour constitutionnelle, donc c'est ce que je vous disais, la Cour constitutionnelle, elle peut dire si une norme est inconstitutionnelle ou pas.
Mais cette fois-ci, la Cour constitutionnelle, elle n'a pas été saisie en recours en annulation pour annuler, elle a été saisie en question préjudicielle. Donc ça veut dire que deux personnes sont dans un litige. En l'occurrence, c'était les personnes à qui on avait refusé la nationalité qui sont allées devant le tribunal en contestant ce refus de nationalité. Et ils ont dit au tribunal, posez une question à la cour constitutionnelle pour savoir si le fait qu'on m'ait refusé la nationalité sur cette base, ce n'est pas inconstitutionnel. Le tribunal a posé la question à la Cour constitutionnelle qui dit si c'est problématique. Elle dit que l'objectif du décret d'intégration, de devoir le prouver, c'est légitime, mais que ça pose problème pour le public analphabète, mais pas tout le public analphabète, celui qui, en dépit du fait que, compte tenu de l'offre des formations existantes, il a fourni des efforts raisonnables pour y parvenir, ne parvienne pas ou puisse démontrer qu'il ne parviendra pas à acquérir au niveau écrit ce niveau linguistique-là. Il y a un projet de loi qui est en cours. Donc la Cour constitutionnelle, elle a dit au législateur, il faut changer la loi. Maintenant, la loi est en cours de modification. Ben, nous, ce qu'on va faire, c'est prendre contact avec le cabinet qui est en train de rédiger ce projet de loi et proposer de rendre un avis. Donc recevoir le projet de loi et proposer de rendre un avis.
Mais tout ça prend du temps.
Oui.
C'est long.
Tout à fait.
Ouais. Très long.
Mais en attendant, j'ai une petite question. Vu que la Cour constitutionnelle a rendu cet avis, est-ce que d'autres personnes analphabètes qui sont en situation de procédure d'obtention de la nationalité peuvent faire appel à cet appel qui fait jurisprudence dans leur parcours du fait qu'à Bruxelles, pour pouvoir avoir ce fameux diplôme A2, on n'efface qu'à un PC, donc il n'y a pas de procédure orale. Et donc, est-ce que, sur base de cet arrêt de la Cour constitutionnelle, lui peut faire appel à...
Si, donc, pour l'instant, si j'ai bien compris, c'est le parquet qui va voir si toutes les conditions sont remplies. Et il y a déjà des parquets qui, connaissant l'arrêt de la Cour constitutionnelle, font des démarches pour dire, ben voilà, comment est-ce qu'on pourrait avoir la preuve que cette personne se trouve dans cette situation-là. Il y a eu des démarches qui ont été faites auprès de l'IRÉCRIR notamment pour dire, est-ce que vous pouvez fournir une attestation? Mais l'IRÉCRIR, enfin, il faut que les choses soient mises dans un cadre. Voilà, il n'y a aucun cadre, c'est un peu... Et donc, il y a déjà des parquets qui font la démarche. Maintenant, ce qui est vraiment... C'est aussi le problème de la fracture numérique. Si vous n'avez pas d'humain en face de vous, vous ne remplissez pas les conditions. Donc, la personne, elle ne les remplit pas, elle va avoir un refus. Elle peut aller devant les cours et tribunaux, à nouveau. Et alors là, un tribunal qui serait saisi de la même question renverrait directement à l'arrêt de la Cour constitutionnelle en disant « La Cour constitutionnelle a dit ça, c'est illégal votre refus. »
Seulement, ça varie en fonction des parquets, du procureur de droit, qui est plus attentif, plus humain, ou moins.
Parce que pour l'instant, ils n'ont pas l'obligation, puisque la législation n'a pas changé. Eux, les parquets sont tenus par la loi applicable à l'heure actuelle. Donc c'est vraiment ceux qui vont faire les démarches en plus d'essayer d'obtenir ces infos-là. Si pas, la solution, c'est le tribunal de nouveau. Mais ça, c'est aussi ce serait hyper intéressant si ça arrive, que ce soit connu pour que dans la vie, ça puisse... que des personnes se voient refuser encore la nationalité à cause de cette situation.
Des cas comme ça, moi plus personnellement, j'ai plein d'exemples. Des personnes qui demandaient avoir accès à notre salle avec des PC pour pouvoir s'entraîner parce que ils étaient tout à fait perdus par rapport à l'ordinateur, savoir où cliquer, donc, qui demandaient à pouvoir venir et s'entraîner sur nos PC. Donc voilà, mais s'il y en a, j'ai ça à l'esprit et de fait...
On peut aussi signaler ça.
Ouais.
Donc en fait, tous les gens qui viennent demander à des tâches, à faire des tests pour ça.
Oui, ça va nourrir la vie qui va être rendue. Ça dépend du projet. Ça tombe, le projet qui est en train d'être rédigé est incroyable, prévoit toutes les situations, envisage tout, et il n'y a pas besoin. Oui.
On sait que pour la preuve de la connaissance de la langue, il y a beaucoup de manières différentes, dont le test de chez Altéris.
Oui, il y a 5 manières.
Il y a plein d'autres manières de faire. Mais c'est vrai que la difficulté, cet arrêt, c'est très très bien. Mais pour rendre sa pratique aux pratiques, c'est très compliqué. Parce qu'en fait, on a été consulté par le ministre, le cabinet du ministre de la Justice, par rapport à des propositions qu'ils avaient. Mais donc, c'était en gros, la réflexion en tout cas allait dans le sens où il faudrait pouvoir prouver que la personne est analphabète. Alors ça, on est déjà quand même face à une difficulté, c'est qu'il n'y a aucune réglementation qui vient dire ce que c'est vrai qu'une personne analphabète et qui pourrait venir dire cette personne est analphabète, celle-là ne l'est pas. Et alors après, c'était, à la rigueur, il n'envisageait pas de demander quand même que la personne ait fourni des efforts raisonnables pour y parvenir. Il limiterait peut-être simplement au niveau A2 dans les compétences orales.
Ce serait bien.
À un niveau, il n'existe aucun organisme qui atteste du niveau A2 dans les compétences orales à l'heure actuelle. Et donc, automatiquement, ils vont renvoyer vers les entités fédérées qui, elles, sont compétentes pour l'apprentissage des langues. Et donc, de cette manière, ils vont de nouveau se retirer de leurs propres compétences, en fait. Ils vont renvoyer sur les entités fédérées qui ont, la compétence, on va dire, de l'apprentissage, cette responsabilité de, d'une part, dire une personne est un alphabète ou ne l'est pas, et qui va être là pour venir prouver qu'on a le niveau A2.
Et vous avez envoyé le projet de texte ?
C'était il y a un certain temps, c'était juste pendant les congés au mois d'août, effectivement, il fallait, on reçoit un courrier le 28 juillet, il fallait pour le 15 août, en plein pendant les congés, bien entendu. Mais c'était l'idée qu'ils avaient. J'ai interpellé la Flandre, ils sont face au même problème aussi. Ils n'ont pas dans une réglementation quelque chose qui permette de dire. Mais donc, où est-ce qu'ils en sont? Je n'en sais rien.
Et ça, c'est les démarches qu'on va faire.
Oui, parce que nous, à Bruxelles, on a fait aussi autre chose qui était une des manières de prouver l'intégration sociale, c'était, la connaissance linguistique, c'était d'avoir réussi avec succès le parcours d'accueil ou d'intégration. Ouais. Et donc, on sait bien qu'à Bruxelles, il y avait souvent, les gens prouvaient leur intégration sociale avec la preuve qu'ils avaient suivi le parcours d'accueil, et les communes, régulièrement, demandaient également la preuve que la personne avait le niveau A2. Et donc, le ministre Marron, à l'époque, a envoyé quand même un courrier aux communes en leur précisant que le Code de la nationalité prévoyait, en tout cas l'arrêté d'exécution, prévoit qu'on peut prouver sa connaissance d'une langue nationale par le suivi avec succès d'un parcours d'intégration. Et donc, on sait que par moment, ça fonctionne.
Il y a encore des cas où ça ne fonctionne pas dans certaines communes.
Oui, quoi, les communes.
Liège, par exemple, le parquet, il veut que ça soit dans tous les modules. Donc, si dans un des modules, il n'y a pas de niveau A2,
tu peux le Mais ça, ça serait vraiment intéressant qu'on puisse avoir cette info-là pour aussi compléter notre avis.
Mais je crois, Anaïs, que quand on a notre rencontre avec Myria sur ce sujet,
ça a été dit.
Ces cas remontent. Parce que c'est vrai qu'il y a certaines personnes qui croient que parce qu'ils ont réussi le parcours d'intégration avec un test de langue, mais ça, c'est pas fédéral, ça va marcher. Or, le code de nationalité, c'est une législation fédérale. Oui. Donc, ça, ils le refusent. Oui.
Mais ça, je ne l'ai pas dit, on travaille avec Myria, on est sur le même plateau.
On est aussi sur le même plateau.
Et donc...
c'est vrai.
Et donc, on va travailler ensemble sur ce projet. Donc, ce qui a été dit à Myria, ça... Pardon ? Droit des étrangers, c'est l'institution.
Avant, on était fusionnés, puis on nous a...
Oui.
Oui, parce qu'effectivement, dans ce cadre-là des attestations, qui atteste quoi? Parce qu'effectivement, il y a les primos, donc ça marche pas toujours, mais effectivement, on peut attester ça. Il y a aussi la promotion sociale, hein, qui est communautaire, hein, c'est Wallonie-Bruxelles. Mais je trouve là aussi un problème, parce qu'effectivement, dans ces filières, en tous les cas, ici à Bruxelles, parce que hier j'ai discuté avec la Wallonie, je pense que c'est pas le cas, mais ici à Bruxelles, tu as la filière alpha et la filière FLE, donc tu peux suivre des cours d'alpha ou de FLE. Le problème, c'est que dans la filière alpha, la nomenclature n'est pas la nomenclature attendue dans le décret A2. En fait, tu peux avoir des certifications d'unité faites en promotion sociale en alphabétisation, 1, 2, 3, etc., 4, mais ce n'est pas, c'est pas marqué à infini, tu as la 2. Et donc, du coup, ça devient trop complexe. Il n'y a pas, effectivement, quelque chose au fédéral qui dit, voilà, c'est ça, et tout le monde se tient à ça, c'est différentes choses, et ça dépend qui, quel parquet, quelle commune, ceci, cela. Donc, ça devient vraiment improbable pour les gens, parce que, sur le terrain, on sait pas quoi dire aux gens, quand ils viennent avec ces demandes. Je vais suivre des cours pour avoir cet A2, mais, on l'envoie où? Faire ci, faire ça, en fonction des quoi, des qui, des comment. Donc, je pense que ce sont des choses intéressantes un peu à mettre aussi en parallèle, quoi.
Merci.
Ah, je voulais dire.
Pour moi, une difficulté aussi, c'est de trouver son niveau de langue, comme disait Maria. Pour le moment, c'est Actiris qui peut fournir une attestation de niveau A2. Il y a le CELOR, la promotion sociale, mais il n'y a personne qui fait... à part Actiris, qui fait spécifiquement des tests nationalité. Il y a eu Bruxelles Formation à un moment donné qui organisait ces tests-là
et qui était adapté quand même assez bien au public.
Il y avait de l'oral là, non ?
Et il y avait de l'oral, il y avait plusieurs compétences, mais ils ont arrêté parce que ils sont pas vraiment désignés pour effectuer ce type de test. Donc finalement, il n'y a pas un organisme qui organise ces tests de manière commune.
Bruxelles Formation stoppait ça, parce qu'il n'y avait pas un lien avec cette ordonnance Bruxelles Numérique qui faisait que...
Non, ça n'a rien à voir. C'est la rapportante de mon ministère, mais c'est pas ça.
La problématique, c'est que le fédéral met des exigences à ce niveau-là, d'apporter une preuve de connaissance de langue, mais qu'il n'y a aucun organisme qui est désigné pour organiser ça et donner les certificats nécessaire pour l'obtention de la nationalité.
Donc, du coup, ça y va trop aléatoire.
C'est un nouveau critère, parce que nous, désolé, nous, en tant qu'extérieur, c'est un nouveau critère. Nous, on ne sait pas de quoi vous parlez.
En fait, pour obtenir la nationalité, il faut démontrer un niveau de connaissance linguistique.
Non,
ça date. Mais c'est problématique parce que la façon de le prouver, c'est par écrit et donc ça exclut toutes les personnes analphabètes ou illettrées. Et il y a un projet de loi qui est en cours parce qu'il y a eu une condamnation par la Cour constitutionnelle et on discute de ça parce qu'on a été saisi de la situation.
Mais donc les gens ne savent pas devenir belges s'ils n'ont pas la connaissance.
Exact. C'est ça. Okay.
Enfin, ils doivent prouver qu'ils ont la connaissance, mais ça passe pas.
Voilà.
Mais c'est une discrimination formidable entre les nationalités, finalement, parce que je suis en train de réfléchir que les personnes qui viennent d'un pays francophone ou en partie francophone, un Sénégalais qui va arriver en Belgique, celui ou un Marocain, ce sera beaucoup plus facile parce qu'il a déjà un contact avec le français que quelqu'un qui vient d'un autre pays. Alors je veux dire, on n'en finit pas de trouver des discriminations.
C'est pas là-dessus qu'est allée la Cour constitutionnelle. Elle n'a pas comparé en fonction des nationalités, elle a comparé en fonction d'une personne qui demande la nationalité, qui est analphabète et une qui ne l'est pas. C'est ça son critère de situation. Elle n'est pas allée sur la nationalité.
Voilà, l'exemple des Sénégalais me semble très correct. Mm-hmm. Justement, oui. Parce qu'il y a beaucoup qui parlent parfaitement français.
Oui.
Et puis effectivement, ils sont incapables, pour des raisons XY, d'arriver à un certain niveau d'écriture-lecture.
Vous êtes sur le critère qu'a pris la Cour constitutionnelle, entre un alphabet et pas un alphabet, pas entre connaissances linguistiques et pas connaissances
linguistiques. C'est difficile,
les compétences orales. C'est pas que les compétences orales, c'est les compétences écrites.
C'est le problème, c'est l'écrit.
Et le problème, il y a des Sénégalais qui viennent avec leur diplôme. Même l'équivalence diplôme.
Peu importe qu'on parle la langue ou pas, en fait, c'est ça le problème de ce test. Peu importe qu'on le parle, qu'on se débrouille, qu'on arrive à communiquer, il y a une demande de connaissances écrites et c'est là que ça pose problème aux personnes analphabètes et illettrées. La Cour dit, on comprend que le code de nationalité demande que les personnes parlent une des trois langues nationales. Ça, c'est pour eux une preuve d'intégration.
Désolé, ils sont aussi bien. Pourquoi est-ce que les gens veulent devenir belges ? Quel est l'intérêt à leur que...
Ça, c'est vraiment un autre débat. Il y a énormément d'intérêts. Oui, il y a des impacts. A priori, plus les droits sociaux, mais il y a quand même des impacts.
Il y en a qui veulent.
C'est un autre sujet, mais par rapport aux personnes sourdes, il y a beaucoup de personnes sourdes illettrées. Le signalement chez INIA est quand même pas aisé parce que soit c'est par téléphone, ce qui du coup est inutile, soit c'est par l'écrit, ce qui du coup pour les personnes sourdes, signantes, illettrées, c'est pas non plus utile. Et donc INIA a pas spécialement une bonne presse dans la communauté sourde. Et moi j'ai déjà dû aider des personnes face à des refus d'aménagement raisonnables, qui étaient quand même crasseux. Et en fait, ils ont pas spécialement confiance en vous, ils n'ont pas spécialement envie de déposer un signalement. Ouais. Du coup, comment faire
en fait ? On sait que...
On est en train de mener toute une réflexion, il y a d'ailleurs, enfin, on a un peu en stratégie sur les 4 ans qui viennent, et on est en train de mener toute une réflexion parce qu'on est conscient que, voilà, c'est pas toujours facile de rentrer en contact avec UNIA, même si, il y a un formulaire en ligne, mais on est bien d'accord, on est en ligne. On a des numéros verts, et avant, on avait vraiment des permanences plus accessibles. Maintenant, on a des antennes locales en Wallonie et aussi dans des villes en Flandre, où là, il y a plus facilement possibilité d'avoir un contact physique avec les personnes, mais il y a moyen de prendre des rendez-vous. Mais il y a toute une réflexion à mener, on en est conscient aussi, parce que nous, par exemple, on a déménagé il y a 2 ans, on est à Aerostation, là derrière la gare du Midi, dans un bâtiment qui est un sort de bunker, on est dans un coffre-fort, en fait, pour accéder à nos bureaux, il faut passer 4 hers, 4 endroits avec des badges, des machins, des trucs, et c'est vrai qu'en termes d'accessibilité, il y a un vrai problème, un vrai souci. Donc on est conscient de ce problème-là, et il y a un groupe de travail transversal chez nous qui réfléchit pour essayer d'améliorer les choses. Alors, ce que c'est avoir un guichet au rez-de-chaussée où on pourrait directement avoir un contact avec les gens, je ne sais pas vers quoi ça va se tourner, puisqu'on est au début du processus, mais en tout cas, ça, on est conscient, il y a un souci. Ouais. Mais donc vous, c'est vraiment la communauté des personnes qui sont sourdes, qui ont vraiment...
Et la question du vrai des signes, par exemple.
Du
vrai des signes, on fait dans ces styles.
Ouais. On reçoit dans les permanences souvent, on reçoit des appels comme ça en disant vous êtes en contact avec.
Ça fait une triangulation, mais ça peut être une manière efficace. Après, il faut le financer, quoi. Il faut qu'UNIA installe le programme, parce que les interprètes ne le font pas gratuitement non plus. Donc ça ne leur gagne pas, mais ça pourrait être une solution efficace, durable.
Ce qu'on fait aussi souvent, c'est que via ce système-là, un rendez-vous en présentiel est pris, et alors là, après, on communique par rendez-vous.
Il y a une association de CPS qui crée Sourds Dimensions et eux font des interventions avec des interprètes de langue des signes. Donc il y a moyen de... En tout cas, dans les communes du Brabant Wallon, je ne dis pas qu'ils...
C'est ce qu'il y a dans le Brabant.
Ça, c'est intéressant. Nous, on travaille avec eux. Et
nous aussi, on
travaille... Depuis, on n'a pas beaucoup... On a plus, beaucoup moins de problèmes que nous.
Il y avait d'autres questions.
J'avais une question. Donc, si on encourage les personnes à venir vous voir, est-ce que vous faites appel à un service d'interprétariat? Il y a le CETIS, par exemple. Donc ça, si je dis à cette personne, tu n'as pas les compétences à l'expression orale, on peut lui garantir un...
Oui, parce qu'il y a Myria aussi qui travaille dans le même bureau et qui est confrontée à un public souvent qui ne sait pas bien le français. Donc oui, tout à fait.
Mais c'est des barrières qui existent, on le sait, parce que prendre contact avec le service d'interprétariat et tout ça complexifie la situation, mais on le fait, ouais.
Moi, je trouve ça bien, cette initiative, justement, d'aller vers les professionnels, de former, de faire un peu découvrir aussi ce qu'on peut faire, nous, sur le terrain, par rapport à ces formulaires de contact. Je veux voir s'il y avait d'autres initiatives qui allaient être prises pour aller à la rencontre, justement, du secteur, notamment des espaces publics numériques, qui sont confrontés aussi avec les informaticiens publics à cette question-là, et qui ont tous les registres, qui ont des données quantitatives énormes sur les problèmes auxquels sont confrontées les personnes, et notamment les personnes qui ne maîtrisent pas très bien le français ou les outils informatiques. Donc voilà, voir un peu comment on peut vous contacter, est-ce que vous faites des formations, est-ce que vous êtes prêt à aller dans des concertations locales, ou est-ce que ça... Voilà.
Alors on ne peut pas être partout, c'est pas possible, malheureusement, mais par rapport au numérique, c'est ce que je disais tout à l'heure, on a mis un groupe de travail transversal au sein d'UNIA, de nouveau toujours dans ce plan stratégique sur 4 ans, où on a pris conscience qu'il y avait vraiment un énorme problème sur cette question du numérique. Et donc merci à lire et écrire, parce que c'est quand même vous qui nous avez un petit peu poussé à nous pencher sur cette situation. Donc nous, on a un groupe de travail qui va travailler là-dessus pendant 4 ans et qui est en train de mettre en place une stratégie. Anaïs en fait partie, j'en fais partie, et d'autres collègues. Par rapport à l'intelligence artificielle aussi, il y a un autre groupe de travail qui travaille sur cette question-là. Alors évidemment, nous, on est super partants pour participer à plein de choses et à être en contact avec justement les acteurs de terrain qui sont en contact avec les publics qui rencontrent vraiment les difficultés, parce que parfois, on est dans notre coffre-fort et on n'est pas au contact de ce qui se passe sur le terrain. Donc on est toujours preneur d'être invité, de pouvoir aller à votre rencontre. Mais voilà, la difficulté parfois, c'est que voilà, on ne peut pas être partout non plus et participer à toutes les réunions, à toutes les rencontres sur le terrain, parce qu'il faut qu'on ait une approche assez stratégique en fait. Par exemple, on nous demande souvent d'intervenir dans des écoles. Ça serait hyper intéressant, évidemment, d'intervenir dans des écoles sur toutes ces questions-là. Et à la fois, on ne peut pas le faire parce qu'on se noierait. Donc, on essaie plutôt de former les professeurs ou de former les directions. Donc, on essaie de travailler comme ça. Donc, voilà. Mais on est toujours partant pour... Enfin, voilà, si on nous invite...
On essaie d'aller si on est invité.
N'hésitez pas à nous inviter et puis on verra si on peut y être. Voilà.
C'est gratuit.
C'est gratuit, bien sûr. C'est
non. Mais oui, c'est gratuit.
Oui.
Oui, donc moi justement, je suis conseiller emploi et formateur en informatique. Je suis confronté 200 signalements, je l'ai en 3 mois, quoi. Donc ouais. Ici, mais ici, les chercheurs d'emploi, c'est pas leur priorité, c'est l'emploi. Donc ici, je suis confronté tous les jours à cette situation, mais je sais pas si ça sera leur priorité de faire le signalement, faire les démarches.
Oui, bien sûr.
Tous les jours, je dois signer des contrats en ligne. Parfois moi-même aussi, je trouve sur des nouvelles plateformes, nouvelles interfaces. Je découvre tous les jours en même temps. Donc, on peut signaler ça ici. Ici, notre association ne va pas prendre la position, ça je le sais. Mais moi non plus, je ne la prendrai pas. Je pourrais faire les démarches. Mais concrètement, je ne pourrais pas m'amuser tous les jours à faire des signalements.
Mais de toute façon, un signalement individuel... Donc ça, c'est hyper intéressant parce qu'on avait, je pense, sur les 200 signalements, un en matière d'emploi. Alors que quand on voit la Fondation Roi Baudouin, les chiffres pour les demandeurs d'emploi et la fracture numérique, ça explose. Mais nous, on ne les reçoit pas. Mais si vous nous envoyez un signalement d'une boîte qui ne permet de postuler, on ne va pas intervenir auprès d'une boîte. Enfin, notre impact, il est nul. La boîte, elle va dire oui, mais ceci ou mais cela, et les autres font la même chose. Donc ça, c'est quelque chose de structurel à nouveau. Il faut qu'on aille auprès des structures.
Et donc ici, moi, concrètement, je peux vous les signaler. Vous allez rassembler.
Ouais. Okay. Ouais, vous pouvez même faire un signalement en disant il y a eu ça, 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 et nous on va voir quelle est la structure. Je travaille pas en matière d'emploi, mais qui chapeaute ce bazar-là et chez qui on peut envoyer un courrier et demander d'aller rencontrer pour avoir une discussion. Ouais. Et en sachant que c'est pas parce que une IA arrive que l'employeur va faire. on n'est pas là-dedans non plus, hein. Le numérique, c'est un paquebot et on est un radeau. Hein.
Et on a aussi beaucoup de gens qui se retrouvent avec des usurpations d'identité. Parce qu'en fait, ils apprennent à postuler et ils envoient leur carte d'identité, leur carte bancaire par mail.
Ça, vraiment, si vous faites une liste avec quelques signalements que vous recevez, vous mettez dedans, ça c'est pour nous super riche, quoi. On peut écrire dans nos interpellations. Vraiment très intéressant.
Pour le groupe de travail, je trouve qu'il n'y a pas de groupe qui représente les oubliés. Donc, je veux dire, on a identifié déjà que c'est les personnes malentendantes, les personnes en grande pauvreté, les seniors, que ça peut toucher tout le monde aussi. On a déjà identifié que c'est 50% de la population, sans compter les plus de 75 ans. Donc, on sait que c'est un groupe hétérogène. Mais à part les ASBL qui ont chacun leur spécialité, donc ici on parle des alphas, alors qu'en fait ça concerne les personnes en situation de handicap, les personnes pauvres, les malentendants, il y a beaucoup d'autres choses qui ont des intérêts. Et je me dis, tiens, tant que structurellement il n'y a pas une organisation, une association qui représente les personnes concernées, c'est-à-dire allez, 2 personnes malentendantes, 2 seniors, deux personnes qui ont des difficultés pour lire et écrire. Et ça, c'est facile à faire, parce que chaque assos peut recruter 2 représentants. Et à ce moment-là, ces représentants doivent être payés, première chose, parce que tout le monde sait que quand on est dans une situation de vulnérabilité, on a d'autres priorités. Et on sait aussi que quand un travailleur social s'occupe d'une personne en vulnérabilité, il a d'autres priorités aussi que de signaler, même si évidemment, à long terme, il est content que ça ait du sens pour lui de participer à un aménagement structurel sur le long terme. Mais ce que je veux juste dire par là, c'est que je pense qu'il faut un groupe d'autosupport ou un groupe d'autoreprésentation des personnes concernées. Alors ça existe du côté des usagers de drogue. Il y a des initiatives et elles ont été très bénéfiques en réduction des risques. Ça existe du côté rue, voilà, que ce soit le syndicat des immenses. Ou je dirais, il y a plusieurs initiatives qui ont donné des très beaux résultats. Il y a les experts du vécu qui ont donné des très beaux résultats dans la lutte contre la pauvreté, etc. Si on pouvait partir de ces expériences positives, qui sont des grandes pratiques, réunir un représentant de chaque catégorie, voilà, ceux qui sont en fracture numérique, ce truc, même peut-être des professionnels qui accompagnent ces gens comme représentants de ces difficultés-là. Dans les écoles, ben voilà, 2 mamans qui sont obligées, des trucs. Et il y avait du côté wallon, je sais plus comment ça s'appelle, le CAWAP qui teste, l'accessibilité de ces services. En ayant un protocole où ils impliquent vraiment les concernés, c'est-à-dire qu'il y a vraiment des malentendants, il y a vraiment des personnes... Je me dis que nous, on pourrait peut-être, avec nos ressources, focaliser ça, et alors cet organisme pourrait avoir aussi la mission de signaler, parce que voilà, les solutions des malentendants, ils les connaissent, les malentendants.
Et je me dis, voilà, ça, ça manque, c'est vraiment manquant, je trouve, et c'est pas tellement irréalisable, je trouve, de fédérer nos ressources qu'on a déjà.
Il y a une plateforme à créer, et peut-être que la dynamique autour de l'ordonnance numérique, qui a quand même mutualisé beaucoup d'acteurs, serait un point de départ, c'est peut-être à partir de là.
Mais ça, c'est sur Bruxelles, il faudrait...
C'est sur Bruxelles, évidemment, mais alors...
Non, c'est justement au niveau fédéral, parce que je pense que le problème, c'est que la mobilisation ici, elle était sur Bruxelles,
oui,
sur
oui.
une ordonnance bruxelloise pour une question d'ordre fédéral européen. Et c'est comme ça que Claire Fayet s'en est sortie. Il avait raison dans son argumentation, en partie, sans compter tout écologique, tout ça, qu'il n'y avait pas beaucoup de courage de défendre jusqu'au bout leur position. Mais tout le monde était pour, mais tout le monde a voté pour.
Ouais.
Hein, donc,
tout le monde était contre,
mais tout le monde a voté pour. Parce qu'on ne lâche pas sa majorité. Mm. Donc, bon, bravo pour le courage à ce niveau-là. Mais ils avaient raison parce qu'il n'y avait rien à gagner. C'est-à-dire, ce que Léa a écrit, a gagné, la mobilisation a gagné, c'est de mettre le steak sur la table. Mmh. Et donc, la problématique, elle est fédérale à ce niveau-là. Donc, il faut, je trouve, une représentation au niveau fédéral. Et les personnes souffrant d'un handicap ont déjà cette représentation au niveau du Conseil national. La lutte contre la pauvreté a déjà aussi ses structures au niveau national. Mais les oublier du numérique, parce qu'ils sont comme ça...
Clic-cloc dans plein de...
Et les acteurs... associatifs qui aident ces personnes n'ont même pas une fédération. Caban n'a même pas, c'est Caban, collectif des acteurs de l'inclusion numérique, n'est pas reconnu, n'a même pas un mi-temps de coordination. Et dans Caban, il y a les réécrire, il y a les EPN, il y a les CPAS, et bon, ils sont pas inscrits parce que, voilà, comme autorité, ils peuvent pas s'inscrire, mais ils sont là. Il y a Bruxelles Formation, il y a Actiris, il y a peut-être Rounia, je sais pas, mais je veux dire qu'ils pourraient, rejoindre, c'est un groupe de travail. Et donc, il manque, je trouve, une représentation et des concernés oubliés, et des acteurs oubliés. Et évidemment, c'est divisé par chacun dans son secteur, et on sait que l'identité même sont des secteurs différents. Donc évidemment, on ne doit pas tous les aligner, on ne va jamais arriver à les aligner, parce qu'ils ont des intérêts différents. Mais par contre, qu'on puisse quand même les réunir dans une sorte d'archipel de gens qui demandent la même chose, parce que quand on voit les revendications des handicapés pour l'accès, rien que pour l'accès, toutes nos revendications à nous pour la fracture numérique sont déjà dedans. Parce que si on est accessible en chaise, ben il faut un guichet, il faut un truc, les téléphones, même chose. Et la dernière chose que je voulais dire, c'est que c'est tellement grand ce qu'on revendique, est-ce qu'on ne revendiquerait pas seulement le recours ? C'est-à-dire que seulement que tous les services en ligne obligent à un recours. Et le recours, c'est un guichet où quelqu'un peut vous aider si ça bug, et un téléphone. C'est-à-dire que si ça ne marche pas, quelqu'un que vous pouvez appeler.
C'est la recommandation 1, quoi.
Voilà, mais que ça. Juste que tout service qui existe, ben, si ça ne marche pas, il faut quelqu'un qu'on peut contacter. Après, il faut les critères de quoi. Si c'est 2000 personnes, il y a eu 3 heures d'attente sur le téléphone, il faut identifier. Mais le recours, juste se battre sur le recours, d'obliger le recours. Et à ce moment-là, si le recours est obligatoire, placer la responsabilité du recours sur la personne. Si la commune a besoin des recours, alors elle finance les EPN. Mais la troisième chose que je veux dire, les EPN ne sont pas financés. Ils ne sont pas financés. Les acteurs qui accueillent les gens qui sont en difficulté numérique ne sont pas formés. C'est-à-dire que les médiateurs numériques, ils n'ont pas la carte sociale de toute l'offre nécessaire. Ils ne savent pas qu'il faut dire à Ounia d'aller refaire ça. Personne ne les a formés pour ça. Et donc, il y a une formation nécessaire des acteurs et une représentation des acteurs qui n'existe pas. Et c'est qu'avant, mais je veux dire qu'il n'est pas soutenu, qu'il n'est pas reconnu, qu'il n'est pas... voilà, donc autant les personnes, trucs. Et c'est au niveau fédéral aussi. Donc, tant qu'il n'y a pas ça... C'est difficile, je trouve, pour...
Est-ce que ça existe à l'étranger ? Est-ce que quelqu'un a une vision de ce qui existerait comme acteur qui mutualiserait toutes les victimes, quelque part, de ce vaste processus de digitalisation qui serait très structuré dans d'autres pays ? Ou bien c'est partout pareil, où tout le monde est éclaté Non ?
C'est très d'actualité, donc les oubliés sont oubliés tant au temps. Donc, ils sont oubliés, ça arrange tout le monde.
Quoi. Oui, mais je pense, tout à fait. Pour faire avancer la digitalisation à marche forcée, il faut justement qu'il n'y ait personne en face. Donc, il faut mutualiser, se mobiliser.
C'est une super idée, je pense, je trouve.
Et vous n'avez pas les moyens de mettre ça en place ?
C'est pas Anaïs, un petit peu par moment.
Mais c'est pas notre job, hein. On a des missions légales, on a des missions... Mais c'est, un, on fait des recommandations, et deux, c'est vraiment quelque chose, puisqu'on est en train de bosser là-dessus, c'est vraiment quelque chose qui peut être réfléchi, et réfléchi, vraiment, ça représente quoi, c'est qui, quoi. Mais c'est pas à notre niveau, nous on est des collaborateurs, là vous parlez du top co-directeur d'UNIA.
Mais disons, ce n'est pas tellement la fracture numérique qui existe, c'est évident, mais il y a aussi une fracture linguistique. Je trouve que les administrations, les services, dans le secteur privé aussi, on utilise de plus en plus des jargons incompréhensibles.
Oui.
Et donc, il y a bien sûr les sourds et les malentendants, mais il y a de plus en plus de malcomprenants, parce que les gens ne peuvent plus s'exprimer dans un français correct. Et j'imagine qu'en irlandais, en anglais ou dans toutes les langues, c'est la même chose. Et donc, je me demande, vous pourriez peut-être recommander ça quand vous passez quelque part, on leur dit, écoutez, est-ce que vous ne pourriez pas vous exprimer simplement comme des personnes humaines et pas comme des spécialistes en droit.
L'uniformisation des pratiques, il y a un cas très clair qui disent, voilà, ça doit être compréhensible par tout le monde, il faut sortir du langage technocratique et du langage d'informaticien.
Dans mon travail, on devait dire 110% de la moitié. Puis quelqu'un a dit, tiens, si on disait 55%, ça n'a l'air de rien, mais c'est quand même...
Ouais. pour l'anecdote, j'ai vu passer une offre d'emploi au CELOR sur quelqu'un spécialiste en langage juridique clair. Ça m'a beaucoup
fait rire.
On reçoit les formations de langage juridique clair, parce que c'est vrai qu'on a des petites tendances aux phrases bien juridiques.
Et disons que
c'est particulier quand même, hein, le français juridique.
Ouais.
Si on en arrive maintenant à des problèmes, parce que le langage inclusif qu'on veut nous imposer, ça va encore faciliter les choses. Des gens qui ont du mal à comprendre le français.
Ça,
je veux dire, on habille Saint-Pierre pour habiller, on déshabille Saint-Pierre pour habiller Saint-Paul.
Mais ça, c'est vraiment un autre débat.
On le commence à 14h, si vous voulez.
Il y a encore quelque chose. Je voulais dire qu'au niveau de la difficulté linguistique, de la barrière linguistique, il y a par contre des exemples aussi, des choses qui fonctionnent bien. Et là, je ne parle pas seulement pour le français, mais justement pour les personnes migrantes en apprentissage de la langue, etc. À Vienne, tous les services publics fournissent déjà les infos en plusieurs langues, dans les langues principales. Voilà. Et ici, c'est vrai qu'il y a des choses mises en place avec des interprètes, mais qu'il faut trouver, il faut prendre rendez-vous. Enfin, voilà, souvent il faut payer. Et donc tout ça, c'est très bien. Mais je veux dire, il y a aussi moyen de faciliter les choses en traduisant les infos directement, si seulement il y avait une volonté politique de.
Mais ça se fait quand même de plus en plus au niveau de la région. Je pense que tous les communicateurs, tous les services de com, des différents ministères et tout ça. Suivre des formations à la communication inclusive et il y a une volonté d'aller vers ça. Encore tout récemment, là, il y a le SPW en Wallonie qui travaille sur une brochure logement. Ben voilà, ils vont le décliner en plein de langues. Donc, mais ça demande aussi des
personnes qui ne savent pas lire du tout, même leur langue.
Oui, oui, bien sûr. Mais voyons. Il y a des obstacles.
Merci beaucoup.
Merci beaucoup.